Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Marine. Depuis son plus jeune âge, Marine le sait. Plus tard, elle exercera auprès des enfants. Son chemin vers le métier d'infirmière puéricultrice était déjà presque tout tracé. Elle vous parlera aussi de son rôle en PMI. Bonne écoute! Bonjour Marine!
Bonjour Marielle!
Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur Compresse et Sparadra.
Et ben moi aussi, je suis très contente de pouvoir faire découvrir ma spécialité et puis mon lieu d'exercice qui regorge d'idées préconçues. Donc on va faire découvrir ça à tout le monde.
Exactement, je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Et donc c'est le premier épisode qui est consacré à ton métier d'infirmière puéricultrice. Donc on a plein de choses à se dire. Pour commencer, je te laisse te présenter.
Eh bien, je m'appelle Marine, j'ai 34 ans, presque 35. Je suis puéricultrice depuis 9 ans maintenant et infirmière depuis presque 11 ans. J'habite en Normandie, je suis mariée et... Voilà.
Très bien. Tu sais que moi, j'aime toujours savoir qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier. Donc, est-ce que devenir infirmière puis puéricultrice, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis l'enfance ou comment ça s'est présenté pour toi ?
Eh bien, alors pas vraiment, puisque dans mon entourage, il n'y avait personne du milieu médical à l'époque. Le seul fil conducteur que j'ai toujours eu, c'était de travailler avec les enfants, puisque depuis toujours, je savais que je voulais travailler avec les enfants. Donc, je suis passée par l'idée de devenir maîtresse d'école. J'ai eu une période où je voulais être pédopsychiatre parce que la psychologie m'intéressait énormément. J'ai voulu aussi travailler dans la brigade des mineurs. Donc, c'est un peu un lien avec ce que je fais aujourd'hui quand même. Et quand j'étais au lycée, je voulais être sage-femme. Et donc je me suis présentée à la première année de médecine, puisqu'il faut passer par la première année de médecine pour après en être en école de sage-femme. Malheureusement, après deux essais infructueux, il a fallu que je me rende à l'évidence que je n'allais pas rentrer en école de sage-femme, même si avec le recul, je ne suis pas sûre que j'avais les épaules, parce que c'est un métier quand même avec beaucoup de responsabilités. Donc finalement, je me dis les choses sont bien faites dans la vie et je m'épanouis aujourd'hui beaucoup dans mon métier, donc c'était bien que ça se passe comme ça. Mais c'était une expérience très enrichissante. Et donc, je suis rentrée en école d'infirmière parce que je me suis dit, après quelques recherches, que le métier de puéricultrice pourrait vraiment bien me convenir. Et j'avais déjà à l'époque l'idée un petit peu de la PMI aussi qui restait dans un coin de ma tête.
Ah, déjà ? Ok.
Ouais, très vite, c'est un métier qui m'attirait. Et donc, j'ai fait l'école d'infirmière dans l'idée quand même de passer après le diplôme de puéricultrice. Et les différents stages que j'ai pu faire à l'école m'ont confortée dans cette idée-là que c'était ce que je voulais faire, même si finalement, pendant les différentes années, les stages que j'ai pu faire, j'ai aussi apprécié de travailler auprès de la personne âgée, auprès d'autres types de populations. C'était vraiment intéressant et même si finalement, j'avais pas réussi à devenir puéricultrice, je pense que j'aurais pu m'épanouir dans d'autres services auprès de l'adulte. Ça se serait bien passé, j'aurais quand même été épanouie dans le métier d'infirmière.
Ah, tant mieux. Est-ce que tu as réussi à, je sais que c'est pas toujours possible, mais à orienter tes stages vers la petite enfance pendant ces 3 ans d'études ?
Alors, plutôt, alors pas forcément grâce aux formatrices, ouais. Puisque alors on pouvait faire des vœux de stage, alors comme dans beaucoup, je pense, d'écoles, on avait le droit de faire en début d'année 3 vœux de stage. Mm-hmm. Alors les 3 vœux n'ont jamais été exaucés. La seule année où l'un des stages m'a été proposé, donc j'avais demandé à faire un stage dans un service dans notre hôpital, dans notre CHU, qui s'appelle les nourrissons. Donc c'est un service de pédiatrie médicale, mais vraiment nourrissons. Et donc on m'a proposé ce stage sur un été, sauf que c'est un service qui est quand même assez saisonnier et donc qui ferme l'été. Donc c'était un peu dommage de proposer ce service, alors que c'est un service qui ferme tous les ans l'été, mais en plein mois de juillet, on me proposait ce service, et donc j'ai dû changer et faire des urgences pédiatriques à la place, qui était très intéressant aussi, mais voilà. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un parcours riche, j'ai pu aller en première année en crèche, en deuxième année, j'ai fait un stage de réanimation chirurgicale néonatale. J'ai pu faire un stage de PMI à mon initiative puisque en fait on avait la possibilité en deuxième année, si on validait notre année sans faire de rattrapage, on pouvait demander un stage extérieur et ils nous avaient proposé pour ceux qui le souhaitaient d'aller en PMI. Et donc j'ai sauté sur l'occasion puisque ça trottait déjà dans ma tête à l'époque.
Ah génial.
Et bon, ça a été une révélation à ce moment-là. Et c'est donc vrai. En dernière année, j'ai fait donc le stage aux urgences pédiatriques Alors moi, j'avais fait le choix personnellement pour mon stage pré-professionnel de ne pas faire de pédiatrie. Alors, dans un esprit vraiment tactique pour le DE, pour la mise en situation professionnelle du DE, où comme la pédiatrie, j'avais quand même pas beaucoup d'expérience derrière moi, j'avais peur de faire mon stage de diplôme d'état dans un stage de pédiatrie et du coup de ne pas réussir. Donc j'avais choisi de faire mon stage de diplôme d'état dans un service de médecine adulte
ouais.
que j'affectionnais. Enfin voilà, c'était des soins que je maîtrisais à peu près, des pathologies que je connaissais, etc. Mmh. Et donc dans ce but-là, j'avais fait mon stage pré-pro dans un service aussi de médecine pour aller dans la lignée du DE, pour mettre toutes les chances de mon côté.
Ouais, mais c'est le moment où il faut se la jouer un peu tactique, hein, clairement. C'est ça. C'est pas le moment où il faut se mettre en difficulté, c'était plutôt un bon calcul.
C'est tout à fait ça. Mais du coup, après, quand j'ai été diplômée, contrairement à d'autres qui avaient fait leur stage pré-pro dans des services de pédiatrie, j'ai eu un petit peu moins accès facilement à de la pédiatrie.
Ah, c'est vrai, ouais.
Quand j'ai obtenu mon diplôme. Donc j'avais postulé dans différents hôpitaux à l'époque, on avait encore de la chance d'être embauché assez facilement et un peu dans le service qu'on désirait. Et donc il y avait un hôpital, alors pour le coup que je connaissais pas, mais j'avais eu des bons échos sur cet hôpital-là, qui était un hôpital un peu plus périphérique, donc un peu moins grosse machine qu'un CHU. Et dans cet hôpital-là, ils avaient un poste en pédiatrie. Mais comme ils savaient que je passais mon concours de puéricultrice très peu de temps après, et qu'au vu de mon profil, ils imaginaient que j'allais l'avoir, et qu'il y avait trois services, il fallait me former sur trois services, ils ne souhaitaient pas me former sur trois services pour que je parte moins d'un an plus tard, potentiellement que je parte moins d'un an plus tard, et donc ils m'ont proposé un service de médecine, et finalement j'ai pas regretté, même si c'était de l'adulte, puisque j'ai beaucoup appris. Alors moi j'ai eu l'impression, je sais pas si pour beaucoup d'infirmiers c'est comme ça, mais que j'ai beaucoup plus appris une fois avoir été diplômée que pendant mes 3 ans d'études.
C'est vrai.
Parce que c'est vrai que le premier jour, on se dit, bon, alors, c'est qui l'infirmière? C'est moi. Me retourne, il n'y a personne derrière moi.
C'est vrai, cette sensation, elle est étrange.
Les étudiants viennent me voir et il faut que je prenne une décision. Donc, c'est beaucoup de responsabilité, mais c'était un service vraiment super, avec une équipe super. Hein, j'ai énormément appris, ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup accompagnée. Enfin, j'en garde des super souvenirs, vraiment, même si ce n'était pas de la pédiatrie. J'ai vraiment adoré ces quelques mois. J'y ai passé 8-9 mois, puisque... ils avaient bien prédit, j'ai bien eu mon concours de puéricultrice, d'entrée à l'école de puère très rapidement, et donc j'ai pu intégrer l'école moins d'un an après l'obtention de mon DE infirmier.
D'accord, donc il n'y a pas de délai demandé d'exercice entre l'obtention du diplôme d'état infirmier et le passage du concours de puéricultrice, ok.
Non, pas du tout. Alors les IAD, il me semble qu'il y a au moins 2 ans, si je ne dis pas de
bêtises. Oui, pour les infirmières anesthésistes, ouais, exactement.
Pour les infirmiers de bloc, je ne sais plus, mais je crois qu'aussi, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, l'école de puéricultrice, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé, même si moi, je pense, de façon personnelle, qu'il est mieux d'avoir quand même travaillé, alors même idéalement, je dirais, que avoir travaillé en pédiatrie avant d'intégrer l'école de puéricultrice, c'est un plus, parce que ça permet de mieux se projeter, de mieux intégrer les choses et d'aller plus loin aussi, parce que moi, je découvrais quand même beaucoup de choses, même s'il y avait un module de pédiatrie pendant mes 3 années d'école d'infirmière. J'ai quand même beaucoup découvert pendant l'année de puère, alors que mes collègues de promo qui avaient une expérience de plusieurs années dans différents services de pédiatrie allaient plus loin finalement dans leurs connaissances parce que tous les liens se faisaient beaucoup plus vite que pour moi. Et même sur les stages, par exemple, j'avais pas envie de demander un stage de réanimation pédiatrique parce que, par exemple, je voulais déjà faire de la pédiatrie classique parce que je me sentais pas à l'aise, alors que maintenant, avec le recul, je me dis... même si la réanimation, je ne me serais pas forcément vue travailler en réanimation de ce que j'en connais, ça aurait pu être intéressant d'y faire au moins un stage pour découvrir les soins, découvrir le type de relation avec les parents, etc. Ça aurait pu être enrichissant quand même de d'y faire un stage.
C'est sûr.
Je n'aimerais pas refaire
pour passer. Oui, c'est ça. Oui, exactement.
Mais voilà, c'était vraiment... si j'avais un conseil à donner à des futures étudiantes ou étudiants... en puériculture, ça serait s'ils ont la possibilité de travailler au moins une petite année et idéalement en pédiatrie.
En pédiatrie, d'accord.
Je pense que c'est un plus après pour faire l'école qui l'année est assez dense quand même.
Oui, c'est ça. Donc c'est une seule année de formation.
Ouais. Alors franchement, aujourd'hui c'est qu'une seule année. Ça fait le programme a 40 ans. Hein. Il a été fait dans les années 80. Il y a presque 10 ans, quand j'ai fait l'école, enfin 10 ans maintenant, c'était en 2013, quand j'ai fait l'école, on nous disait déjà qu'on était sûrement la dernière promo avec ce programme-là, qu'il allait avoir une réingénierie. Le programme est toujours le même, voilà. 10 ans après. Et il faudrait qu'il soit au moins sur 18 mois, voire 2 ans.
Voire 2 ans, ouais.
Parce que tout est très dense. C'est une année où on a beaucoup d'apports. Alors, vraiment, il y a une grosse partie sur la prématurité, alors qui est vraiment très intéressant. Mais du coup, on occulte un peu d'autres parties. L'adolescence, enfin, on en parle évidemment, mais ça reste assez condensé. Et je me souviens d'un cours de cardiopédiatrie avec une cardiologue qui est intervenue pendant 2 heures ou 3 heures et qui nous disait, donc qui nous a brossé les choses de façon la plus exhaustive possible, mais c'était très court malgré tout, et qui aurait voulu passer plus de temps, revenir, mais malheureusement, ça, l'année ne lui permettait pas. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir tout ce bagage-là supplémentaire. Alors maintenant que les infirmières pratiques avancées se développent, peut-être que ça va permettre de faire bouger à ce niveau-là, et ça serait bien, puisque aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est une spécialisation qui est quand même assez méconnue, qui est très mal connue. Alors, pour la petite info, qui est très peu connue, on peut être puéricultrice, on peut être infirmière puéricultrice ou sage-femme puéricultrice. Le concours d'entrée est ouvert aux deux professions. Alors, il y a très peu de sages-femmes, c'est vrai, dans les promotions, il y a essentiellement des infirmières, mais c'est ouvert aussi aux sages-femmes.
D'accord.
Moi, j'ai pu en rencontrer une, alors pas dans ma promo, mais une fois que j'étais diplômée, j'ai pu encadrer une sage-femme qui faisait l'école de puéricultrice, puisqu'elle avait l'objectif d'ouvrir une crèche. Et donc, pour être aujourd'hui directrice de crèche, il faut être puéricultrice. Enfin, ça peut être éducateur de jeunes enfants, mais dans ce cas-là, c'est des plus petites crèches que... Mm-hmm. En tout cas, les grosses crèches, il y a forcément un puériculteur ou une puéricultrice à la tête...
Oui, c'est ça, qui chapeaute éventuellement plusieurs crèches, mais il faut avoir le diplôme. Ouais,
tout à fait. Donc voilà, pour la petite anecdote, ça peut être ouvert aux deux professions. Après, donc il y a un concours d'entrée, écrit, oral, d'un niveau, en tout cas moi, l'école pour laquelle j'avais postulé, ça m'a paru être un niveau assez élevé au moment du concours, beaucoup plus que le concours d'infirmier qui m'avait paru...
Plus accessible.
C'est pas simple, mais à ma portée.
Okay.
Là, quand j'étais sortie de l'écrit, je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais l'avoir.
Ah ouais.
Ce qui me rassurait, c'était qu'on était tous dans le même bateau. Mais bon, j'ai réussi à passer les épreuves et à intégrer l'école.
Et comment, après, comment tu te prépares aux épreuves? Est-ce qu'il existe des manuels ou des cours du soir?
Malheureusement, alors je sais pas si ça a évolué, parce que je me suis pas penchée sur la question, mais à l'époque, il y avait pas de bouquins spéciaux. Parce que quand j'ai passé le concours d'infirmière, effectivement, il y avait les différents bouquins pour se préparer, pour les tests psychotechniques, etc. Pour l'école de puère, il n'y en avait absolument pas. Ah, on n'avait pas accès aux annales. Alors d'ailleurs, je pense qu'on n'avait pas accès aux annales parce que le sujet qu'on a eu devait être le sujet qui est réservé à toutes les années, parce que vu de l'état des feuilles de papier...
Ouais.
Là, alors, il y avait quand même un bouquin qui permettait quand même de faire des annales d'autres villes. Malheureusement, c'était un bouquin qui datait quand même de plusieurs années. Il y avait des choses qui n'étaient plus à jour, notamment sur la vaccination, par exemple, ou sur certaines lois. Des choses qui n'étaient plus à jour. Donc, il fallait avoir quand même un minimum de connaissances pour être capable de...
Ouais, de réactualiser ça.
Ce qui n'était pas à jour et se remettre à jour, quoi.
Ah ouais, d'accord.
On se prépare comme on peut, mais je me souviens des tests psychotechniques où, par exemple, on nous demandait de trouver un synonyme dans une liste de mots français. Je ne connaissais pas le mot dont il parlait, je ne connaissais aucun mot de la liste. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai fait du latin pendant le collège et le lycée. J'ai essayé de retrouver un peu les racines pour essayer de me dépatouiller de tout ça, mais c'était vraiment compliqué. Donc, après, il y a un oral. Donc, on tire un peu comme l'école d'infirmière. On tire un sujet lié à l'actualité et plus ciblé sur l'enfance, la famille. Mm-hmm. On présente notre sujet, et puis après des questions un peu plus poussées évidemment que le concours d'infirmière, mais donc nous on était une centaine à se présenter, de souvenirs, et il y avait 25 places.
Ah ouais, une grosse sélection quand même.
Ouais. Donc j'ai réussi à intégrer. Alors l'avantage, je pense, c'est que je sortais de l'école d'infirmière, donc j'étais encore en mode très scolaire, contrairement à des personnes qui travaillent depuis 10 ans, qui doivent se remettre dans l'esprit concours, l'esprit scolaire, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée
complètement
pour passer le concours, et même sur l'année. Alors j'avais pas l'expérience en pédiatrie, mais je venais de finir l'école d'infirmière où j'avais fait un mémoire, etc. Et j'avais fait des stages. Le positionnement de stagiaire, je le maîtrisais bien, alors que c'est vrai que des collègues qui travaillent depuis 10 ans, retrouver la position de stagiaire, c'était
c'est très
dur. Facile.
Ouais, puis la méthodologie, la concentration. Aussi. Enfin, moi, je trouve qu'avec les années, on la perd énormément pour avoir suivi quelques formations qui n'ont rien à voir avec la formation de puéricultrice ou quelque chose de cette envergure. Mais tu te retrouves à une table à écouter quelqu'un parler pendant 8 heures, 8, 10 heures par jour.
Complètement.
Oh, mais quand on passe à un certain âge, c'est un challenge quand même.
Tout à fait. Mais si je devais refaire aujourd'hui la formation, je suis pas sûre que ça serait aussi. Alors, j'aurais pas dit que c'était facile à l'époque, mais je le vivrais peut-être pas de la même façon.
Et moins fluide, quoi. Ouais, ouais.
Dans ma promo, j'avais des collègues qui avaient des enfants en bas âge, enfin des bébés.
Oh là là.
Franchement,
ouais,
je les admirais parce que certaines faisaient de la route pour venir jusqu'à l'école. Elles devaient gérer leur vie familiale, les enfants, la formation. Enfin, moi, je leur tirais mon chapeau parce que vraiment, ça devait pas être simple au quotidien. Mmh. Surtout que donc, c'est une année intense en termes de cours. Sur l'année, il y a 3 évaluations écrites. En tout cas, dans notre école, il y en avait 3, mais je pense que c'est à peu près partout pareil. On avait une épreuve de santé publique à faire, donc on avait un dossier à monter. Alors, nous, notre année, on avait le choix du sujet et du public auprès duquel on intervenait. Ce n'était pas le cas toutes les années. Parfois, il y avait des sujets imposés ou des publics imposés. Nous, on a pu à peu près choisir. Donc, nous, on avait choisi, on était en binôme, on avait choisi d'intervenir auprès des adolescents, parce que c'est vrai que beaucoup choisissaient plutôt d'intervenir auprès d'enfants plus jeunes. Donc, on était intervenu auprès d'adolescents sur les dangers de l'alcool.
Ah, super.
Donc, hyper intéressant, mais ça prend pas mal de temps parce qu'il faut déjà, entre guillemets, alors pas faire une étude de marché, mais réfléchir à quel type de sujet on va traiter, auprès de quelle population. Après, on a dû se mettre en lien avec un collège qui donc avait accepté qu'on intervienne auprès d'eux. On avait dû faire valider, on avait dû monter tout un dossier, faire valider auprès d'eux et après intervenir auprès de la classe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez chronophage. Il y a un mémoire à faire, donc qui est plus conséquent que le travail de fin d'études qu'on a à faire à l'école d'infirmière, puisque dans mes souvenirs, à l'école d'infirmière, on avait une vingtaine de pages à faire. À l'école de puéricultrice, il y a quand même une cinquantaine de pages à faire, donc c'est assez conséquent.
Ouais.
Plus la MSP du diplôme d'État, puisqu'il y a toujours une MSP à l'école de puéricultrice, ce qui peut aussi être compliqué pour les étudiants qui aujourd'hui sont dans la nouvelle promotion infirmière, qui ne connaissent plus les MSP, les mises en situation professionnelle, et qui se retrouvent à l'école de puéricultrice
et qui découvrent ça. MSP. Donc ça, ces mises en situation professionnelle, c'est un formateur de l'école qui vient te rendre visite sur ton lieu de stage et qui évalue un soin donné à un moment donné avec une situation à présenter. C'est vrai que lors de l'ancien référentiel de formation de l'école d'infirmière, c'est quelque chose qui était fréquent. Alors je me souviens pas si on n'avait pas 2 par an.
Oui, c'est ça. On avait 2 par an. Et puis la dernière année, on avait en plus le stage avec le diplôme d'État, donc ça nous en faisait 3.
Exactement. Donc moi je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais moi c'est de toute ma vie, je crois que c'est le moment où j'ai été le plus stressée. Vraiment,
moi aussi.
Presque le bac et le permis à côté, une plaisanterie quoi. Mais c'est extrêmement stressant d'avoir quelqu'un qui observe tous tes faits et gestes, et puis le stress peut amener à des erreurs qui peuvent être à risque, des problèmes d'asepsie, de sécurité du patient et autres, parce que en fait tout est tellement théâtral, etc. C'est extrêmement stressant. Et du coup, voilà, le nouveau référentiel de formation infirmier n'a plus ses MSP, ce que je trouve est une bonne, une moins bonne chose parce que...
Je suis complètement d'accord.
Moi, je me disais, mais tant mieux que finalement que ces situations de stress n'arrivent plus. Et à la fois, ça permettait quand même de mettre en lumière parfois des problèmes dans la formation et de rediriger, de réaxer des choses.
Et puis, je pense qu'on connaissait pas autant les protocoles et autant les dossiers des patients que le jour d'AMSP. Enfin, on était obligé de tout connaître par cœur, d'aller vraiment au bout des choses, parce que le formateur qui allait ouvrir un dossier et qui voyait un traitement, si on l'avait pas inclus dans notre démarche de soins pour le présenter, il allait nous dire « Mais attendez, là, vous avez complètement oublié tel problème du patient. » Donc, on connaissait jamais autant les patients et les protocoles que quand on passait une MSP.
Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, donc on est un peu partagé entre, le plaisir de savoir que ces horreurs n'existent plus.
C'est ça.
Et puis, à la fois, ça permettait de... Alors, c'était peut-être théâtralisé, mais ça permettait de prouver à quel point on connaissait bien son patient, tous les risques qu'il encourait, les traitements, les différents problèmes qu'il pouvait rencontrer dans son séjour à l'hôpital ou pas. Enfin, voilà. Et donc, à l'école de puériculture, ces mises en situation professionnelle, elles existent toujours.
Exactement. Pour l'instant, ça existe encore. Alors, si un jour, il y a la réingénierie qui se fait, ça n'existera peut-être plus, je ne sais pas.
Ouais, ouais.
Mais pour l'instant, ça existe toujours. Donc, c'est une année quand même qui est dense avec les évaluations écrites, le mémoire, la MSP,
le
travail
de santé
publique.
Tout ça en un an. Oh là là.
C'est une année très chargée où Alors, j'avais pas qu'on voit pas le jour non plus, faut peut-être pas exagérer, hein, c'est pas la première année de médecine non plus, mais c'est une année quand même très dense, plus les stages, parce qu'on a 5 stages dans l'année.
Ah ouais, punaise.
Comme à l'école d'infirmière, finalement, 5 stages d'un mois, donc on est obligé donc de passer, de mes souvenirs, en PMI, en structure d'accueil, en maternité, en soins intensifs ou réanimation,
okay.
et dans un service de pédiatrie quelconque.
Okay.
Donc, alors nous aussi, pour le stage de MSP, c'était un tirage au sort, on n'avait pas le choix du lieu, on passerait notre MSP DE, l'école de puériculture. Je ne sais pas si ça se fait partout pareil, mais en tout cas, nous, on tire au sort.
D'accord.
Donc, moi, j'avais tiré au sort des soins intensifs de néonatalogie, bon, qui était en plus à 1 heure de chez moi. Bon, stage hyper intéressant, vraiment très bien, mais bon, on n'avait pas tous la chance quand on tirait, parce que c'est vrai que passer une MSP, par exemple, en PMI, bah, c'est un milieu qu'on connaît beaucoup moins, donc c'est sur l'enfant sain, c'est voilà, c'est pas aussi facile entre guillemets qu'une MSP dans un milieu hospitalier qu'on connaît mieux, avec des soins qu'on connaît mieux, et donc à mon sens, c'était plus facile de passer une MSP en milieu hospitalier parce que j'avais plus d'expérience derrière là-dessus.
Sur un point de vue pratique, cette formation, toi, elle était financée par l'hôpital dans lequel tu travaillais juste avant de passer le concours ?
Alors, pas du tout. Moi, j'avais fait exprès, parce que je savais que l'hôpital, comme j'y étais pas depuis très longtemps, ne me financerait pas ma formation. J'avais demandé à avoir un CDD à l'époque, alors qu'à l'époque, contrairement à maintenant, ils stagiarisaient très vite. Enfin, moi, j'ai des collègues de promo de l'époque, il y a 10 ans, qui ont été stagiarisés et titularisés en moins de 6 mois à l'hôpital, et donc sont devenus fonctionnaires en moins de 6 mois à l'hôpital. Alors qu'aujourd'hui, il faut des années... pour espérer devenir titulaire, même dans le public, c'est bien de plus en plus compliqué. Mais à l'époque, j'avais fait le choix je leur avais demandé de surtout pas faire ça et de me proposer un CDD, puisque j'avais pu lire que le métier de puéricultrice étant un métier en tension à l'époque, parce que dans les services de néonat, les textes, par exemple, disent que normalement, il faut un certain nombre de puéricultrices, sauf que c'est pas forcément fait, alors par choix financier, puisque ça coûte plus cher d'embaucher une puéricultrice qu'une infirmière, ou par choix parce qu'il n'y avait pas forcément assez de monde qui se présentait, je ne sais pas. Mais comme c'était considéré comme un métier en tension, j'avais potentiellement la possibilité de toucher le chômage pendant mon année de formation, puisque du coup, Pôle emploi voulait bien financer l'année. Donc, j'ai travaillé jusqu'en décembre, puisque la rentrée se faisait en janvier, j'ai travaillé jusqu'en décembre. Et puis après, le chômage s'est mis en route, donc j'ai touché le chômage pendant 1 an, ce qui m'a permis quand même de pas avoir cette pression financière quand même. Et puis à l'époque, les frais de scolarité étaient bien moins élevés qu'aujourd'hui, en tout cas dans le département dans lequel je suis, puisque c'est la région qui finance en partie les études de l'école de puériculture. Sauf qu'au fil des années, la région se retire progressivement et donc les frais de scolarité augmentent progressivement, forcément.
D'accord.
Puisque, si je dis pas de bêtises, une année à l'école de puériculture, ça équivaut entre 10 et 15 000 euros. Pour payer les profs, etc. Et moi, à l'époque, alors comme ça faisait moins d'un an que j'avais eu mon DE, j'étais considérée encore comme étudiante, et donc mes frais de scolarité s'élevaient à 2000 euros. Donc c'est quand même une somme, mais par exemple, les infirmières à l'époque qui travaillaient depuis plusieurs années, donc n'étaient plus considérées comme étudiantes, à l'époque avaient déjà des frais de scolarité de 5 à 6 000 euros, si je me souviens bien.
Ah oui, d'accord.
Et aujourd'hui, ça a encore augmenté. Donc celles qui ne pouvaient pas se faire financer par leur hôpital, ou qui ça avait été refusé, et malgré tout, elle voulait faire la formation, devait payer ces frais-là, et ce qui est quand même une somme assez conséquente.
Ah bah c'est sûr, c'est énorme. D'accord.
Donc, et bon, c'est de pire en pire. Donc aujourd'hui, entre guillemets, soit il faut pouvoir se faire financer par son hôpital, soit il faut vraiment être encore en statut étudiant, et donc pour avoir des frais quand même moindres.
Réduit,
parce que sinon, aujourd'hui, je crois qu'on doit arriver entre 8 et 10 000 euros l'année. En tout cas, dans mon département, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais dans mon département, c'est comme ça actuellement.
Si on est financé par l'hôpital dans lequel on exerce, on a souvent des années d'exercice qu'on doit rendre à l'hôpital, voilà, pour compenser, bien sûr, la formation qui a été financée.
C'est ça. Alors, moi, j'ai entendu que c'était plutôt à rendre à la fonction publique, théoriquement. Donc, théoriquement, pas dans le même hôpital. Mais c'est vrai que les hôpitaux, en général, veulent voir revenir le personnel qu'ils ont financé, ce qui est logique.
Fraîchement formé.
C'est ça.
Ils sont intéressés.
Donc voilà comment s'est passée mon année d'année à l'école de puériculture en 2013.
D'accord.
Et donc, j'ai été diplômée donc, en décembre 2013. Donc, il y a 9 ans maintenant.
Eh ben, bravo.
Ça passe vite.
Est-ce que, avant de poursuivre dans l'enregistrement, est-ce que tu peux nous expliquer les missions de l'infirmière puéricultrice et qu'est-ce qui différencie ce métier du métier de sage-femme ? Parce que je sais qu'il y a une grosse confusion entre les deux métiers.
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des confusions, parfois avec le métier de sage-femme et parfois avec le métier d'auxiliaire de puériculture.
Il y a ça aussi, c'est vrai.
Donc, alors, avec le métier de sage-femme, ce qui diffère déjà, c'est que les sages-femmes sont des... c'est une profession médicale, alors que la puéricultrice est une profession paramédicale. Donc, nous, on n'a pas, contrairement à la sage-femme, nous ne posons pas de diagnostic, on ne fait pas de prescription. On est un plus comme, enfin, on est comme l'infirmière à agir sur prescription du médecin. Alors que la sage-femme a une liberté, a des compétences pour poser des diagnostics dans un certain champ de compétences, à pouvoir faire des prescriptions, etc., que nous, ne pouvons pas faire. L'émission de l'infirmière puéricultrice, c'est de suivre l'enfant de la naissance jusqu'à l'adolescence, alors que la sage-femme, elle est beaucoup plus centrée sur la femme, alors enceinte ou ayant eu des enfants, ou pas forcément d'ailleurs, hein. Ça non plus, c'est pas forcément toujours connu. Par exemple, n'importe quelle femme, même si elle n'a jamais eu d'enfant et qu'elle n'a pas de projet d'avoir un enfant un jour, peut être suivie par une sage-femme si elle n'a pas de problème de santé particulier. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et la sage-femme, si je ne dis pas de bêtises, peut suivre les nourrissons jusqu'à l'âge d'un mois. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être jusqu'à deux mois, mais je suis presque sûre que c'est jusqu'à un mois. Alors que nous, on prend le relais de la naissance jusqu'à l'adolescence.
Ok.
L'infirmière puéricultrice n'a pas d'acte spécifique, contrairement à d'autres spécialités d'infirmier. On n'a pas d'acte vraiment dédié. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, on n'a pas d'acte vraiment dédié. Donc, entre guillemets, beaucoup de gens pensent que une infirmière ou une puéricultrice en pédiatrie, l'un ou l'autre, finalement, c'est la même chose. Alors bon, je prêche un peu pour ma paroisse quand même. J'ai pas fait une année pour rien.
C'est ça.
Moi, je trouve qu'il y a quand même des connaissances importantes qu'on acquiert au fil de notre année de spécialisation. Alors, bien sûr qu'une infirmière qui a exercé 10, 15, 20 ans en pédiatrie a acquis aussi beaucoup de connaissances. Je dirais jamais le contraire. Et j'ai rencontré des infirmières dans ma carrière qui n'étaient pas puéricultrices et qui avaient un niveau égal à une puéricultrice. Mais je dirais qu'il y a une vision de l'enfant et de la famille, puisque c'est la spécificité de travailler en pédiatrie, c'est de ne pas prendre en compte seulement le patient, donc qui est l'enfant, mais de prendre en compte ses parents. Donc on n'est plus dans une dyade soignant-patient, mais dans une triade, puisqu'on a les parents à prendre en compte, forcément. Et la fratrie aussi, on peut parfois avoir tendance à l'oublier, mais la fratrie aussi, c'est important de la prendre en considération. Et donc, on fait ce travail-là, et je trouve, moi, qu'en tant que puéricultrice, on apprend à avoir cette approche vraiment globale de la famille, et de ne pas se centrer forcément aussi que sur le problème de santé, si on prend milieu hospitalier, que le problème de santé à l'instant T que présente l'enfant au milieu hospitalier, mais un peu toute la situation et tout ce qu'on pourrait apporter à la famille, même sur d'autres choses, sur de l'accompagnement qu'on peut proposer à la famille. Donc c'est vraiment ça qui diffère. Et donc on est aussi souvent confondu avec les auxiliaires de puériculture, avec qui on travaille beaucoup en milieu hospitalier. Moi, quand j'ai travaillé en milieu hospitalier, on était un vrai binôme auxiliaire-puère. Et l'auxiliaire de puériculture, pour ceux qui ne connaissent pas la profession, on va dire que c'est un petit peu l'équivalent de l'aide-soignante, mais dans le milieu de la pédiatrie. Donc c'est quelqu'un qui va s'occuper de tous les soins d'hygiène, l'alimentation, tout ce qui touche au nursing auprès du patient, donc auprès de l'enfant. Et la puéricultrice va plus être là pour faire les soins sur prescription. Mais c'est vrai que là où je travaillais en milieu hospitalier, il y avait vraiment un binôme, enfin on travaillait réellement en binôme, et ça c'était hyper intéressant, comme toi tu as pu travailler avec les aides-soignants
bien sûr.
Dans les services de soins intensifs ou de réanimation, et c'est vraiment un travail complémentaire, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce qu'on peut proposer aux parents, aux enfants comme approche. Et je pense que c'est vraiment bien de pouvoir travailler comme ça aujourd'hui, quoi.
Ouais, c'est un binôme qui est très agréable. Et puis moi, je disais toujours, les aides-soignantes, elles sont nos yeux, nos mains, parce qu'elles voient plein de choses que nous, on voit pas. Et puis sans elles, on n'est pas grand-chose. Et elles agissent sur délégation de l'infirmière, à la base.
Oui.
Donc on est censé déléguer les soins auprès d'elles. Je parle d'elles parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais ça reste des professions qui ont une grande autonomie dans ce qu'elles font et qui sont expertes dans tout ce qui est soins de confort, nursing, hygiène.
Tout à fait.
Et c'est un chouette binôme, je trouve, moi, de pouvoir compter sur sa collègue.
C'est vrai que souvent, elle passe un temps un peu plus long. Enfin, nous, c'est vrai qu'auprès des enfants... Alors déjà, les soins auprès des enfants sont un peu plus longs que chez un adulte, parce que je me souviens de mon expérience chez l'adulte, où le matin, on arrivait, on allumait la lumière. Bonjour monsieur, bonjour madame, on vient de faire une prise de sang. Franchement, quand on avait 20 prises de sang à faire le matin, on n'avait pas le temps de faire la causette, malheureusement, avec les patients. C'était très rapide et... Alors, je dirais pas maltraitant, mais... Enfin, on n'était pas vraiment dans la bienveillance, en tout cas.
Je suis d'accord.
Alors qu'en pédiatrie, je reviendrai un peu après sur le poste que j'occupais, mais on avait moins de patients en charge et on avait globalement aussi moins de soins, parce que c'est vrai que chez l'enfant, on avait moins de soins, c'est des pathologies moins lourdes, en tout cas dans les services où j'exerçais, c'était des pathologies moins lourdes, et donc moins de soins, et on avait la chance de pouvoir prendre le temps de faire les choses, d'expliquer aux parents, etc. Donc déjà, nous, on mettait déjà plus de temps à faire les soins, et les auxiliaires de puériculture passaient aussi beaucoup de temps pour les soins de nursing, pour l'alimentation. Du coup, on pouvait observer beaucoup plus de choses. Et puis, des fois, les parents aussi se confiaient parfois plus à l'auxiliaire qui, on pouvait faire peut-être un peu peur, ou on était là pour des soins un peu plus douloureux, etc. Et oui, donc, oui. Les parents se sentaient peut-être un peu moins en confiance avec nous et pouvaient plus se confier des fois à l'auxiliaire et apporter des informations qui, pourtant, étaient capitales, nous, pour prendre en charge au mieux l'enfant et mieux comprendre l'enfant, sa pathologie. Donc, c'est vrai que c'est un binôme qui, à mon sens, était essentiel pour une meilleure prise en charge des patients.
Ouais, complètement. Donc toi, du coup, alors pour en revenir à ta formation, une fois le diplôme de puéricultrice en poche, alors déjà bravo, parce que franchement, tu viens de nous l'expliquer, mais tant de connaissances, tant d'examens, tant de choses en si peu de temps, c'est vrai que franchement, ça mériterait que ça dure quand même au moins un peu plus d'un an.
C'est une année très dense.
C'est ça. Tu as postulé, j'imagine, dans une structure. Alors qu'est-ce que tu as choisi justement ? L'hôpital dans lequel tu étais ?
Alors, je me suis retournée. Alors, quand j'ai fait l'école de puéricultrice, je ne pensais pas forcément retourner dans l'hôpital dans lequel j'avais travaillé, puisqu'il était plus loin de chez moi. Donc, je ne savais pas trop vers quoi je me dirigerais. Même si j'avais la PMI quand même dans le fond de ma pensée, je ne me sentais pas d'exercer tout de suite en PMI, parce que je me disais qu'il fallait quand même un certain nombre de connaissances. Et puis, je ne me sentais pas les épaules assez larges pour affronter la protection de l'enfance, qui est un domaine assez lourd. Donc, je me disais qu'il fallait quand même que j'exerce dans le milieu hospitalier avant de me lancer en PMI. À l'époque, j'imaginais travailler au moins 10-15 ans à l'hôpital avant de me tourner vers la PMI.
Ah, d'accord. OK.
Bon, les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça.
Spoiler, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme ça.
C'est ça. Et donc, à l'époque, dans la promotion de puéricultrice, d'école de puériculture, j'avais une collègue de promotion qui venait de l'hôpital où j'avais travaillé précédemment, mais elle venait de pédiatrie. Et donc, elle m'avait expliqué... Alors, déjà, j'avais beaucoup apprécié cet hôpital puisqu'il était plus à taille humaine et donc j'avais l'impression d'être un peu dans une grande famille. C'était un hôpital qui n'était pas un CHU, pas une grosse machine, et j'avais apprécié ce côté-là. Et donc, la spécificité, c'est qu'ils avaient trois services de pédiatrie, des urgences pédiatriques, un service de pédiatrie et de la néonatologie. Et les infirmières et puéricultrices qui y travaillaient, et les auxiliaires également d'ailleurs, n'étaient pas affectées à un seul service. En fait, on tournait sur les trois services.
D'accord.
Et donc, de ce fait-là, ça me paraissait intéressant, même si ça me faisait un peu peur, forcément.
Ouais.
Et donc cette collègue de promotion, qui d'ailleurs est devenue une très bonne amie maintenant, m'a un petit peu poussée à postuler dans ce service, même si, à l'époque, il n'y avait pas de poste officiellement disponible. Mais bon, j'ai postulé en me disant, on verra bien... Parce que le CHU, c'était des services beaucoup plus spécifiques, des soins parfois plus lourds, des situations aussi plus lourdes, et je ne me sentais pas forcément d'être face à des maladies très graves auprès de l'enfant, faire face au décès de l'enfant, en tout cas, je ne m'en sentais pas capable. Donc, je me suis dit, un petit hôpital de périphérie, je vais voir des choses intéressantes, mais ça sera peut-être un petit peu moins difficile émotionnellement. Et j'ai eu de la chance, c'est quand même, il y avait finalement des postes qui se libéraient parce que d'autres filles partaient à l'école de puériculture. Donc, j'ai été embauchée à ce moment-là. Et donc, j'y suis restée 6 ans, donc à tourner sur les urgences pédiatriques, sur de la pédiatrie, sur de la néonatologie. Donc, j'ai appris énormément de choses, j'ai vu beaucoup de choses. On avait en plus une bonne équipe, donc à la fois paramédicale et médicale. Et donc, on était un peu dans l'optique de toujours améliorer les choses, de faire au mieux. Par exemple, moi, quand j'y suis arrivée, les pédiatres ne dormaient pas sur place la nuit. Il n'y avait que les internes.
Ok.
Donc, c'était pas forcément évident parce que, par exemple, aux urgences pédiatriques, on n'avait pas de pédiatre qui dormait sur place. Donc, il fallait appeler s'il y avait vraiment... Donc, c'est l'interne qui gérait, sauf s'il y avait une grosse situation, le pédiatre était appelé et il se déplaçait.
Ok.
Et donc, par exemple, en néonatologie, on ne pouvait pas encore faire de ventilation non-invasive puisqu'il n'y avait pas de pédiatre la nuit, on transférait systématiquement. Et finalement, quelques mois après mon arrivée dans le service, les pédiatres ont commencé à dormir sur place, ce qui a permis, par exemple, en néonatologie, de mettre des ventilations non-invasives la nuit, notamment, par exemple, pour les bronchiolites. On a beaucoup parlé des bronchiolites ces dernières semaines. C'est un des soins qu'on fait facilement... quand un enfant se dégrade avec une bronchiolite, c'est de mettre cette ventilation. Donc, c'est des petites canules au niveau des narines qui insufflent de l'air avec une certaine pression et qui permettent de ce fait-là d'ouvrir les alvéoles et que l'enfant soit mieux oxygéné. Mmh. Et ça, avant que les pédiatres dorment sur place, on ne pouvait pas le garder la nuit parce que bah, c'était un enfant, entre guillemets, pas assez stable et donc il devait être transféré au CHU. Et une fois que les pédiatres ont dormi sur place, bah, ça a permis de mettre en place ça, que les enfants puissent rester dans cet hôpital-là, que les parents bah, puissent rester dans un hôpital à proximité de chez eux, ce qui était quand même plus facile, notamment quand il y avait aussi des frères et sœurs plus âgés à gérer. Mmh. Pour les familles, c'était quand même beaucoup plus confortable. Et puis nous, c'était aussi assez stimulant de faire des soins qu'on n'avait pas l'habitude de faire.
C'est ça, et moins frustrant aussi de voir ces patients partir. C'est quelque chose dont on parle rarement, mais moi, j'ai eu ce sentiment de frustration dans certains services dans lesquels j'exerçais, où tu te dis, oh, faut passer à la main. Alors logiquement,
oui, hein, on ne va pas au bout des choses.
Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais,
tout à fait, je suis complètement d'accord. Et puis c'est un petit peu aussi valorisant quand on voit que finalement après le patient va mieux et que c'est, alors j'aurais pas la prétention de dire que c'est grâce à nous, mais c'est grâce à bah, les soins qu'on a apportés, au traitement, enfin
c'est gratifiant.
Un panel de choses, hein. Mais c'est quand même valorisant. Puis de voir les parents à la fin repartir avec le sourire, leur enfant dans les bras et se dire bon bah on a fait du bon boulot en collaboration avec eux, et puis l'enfant va mieux, et puis il peut retrouver son chez lui, ses parents, sa fratrie, sa famille. C'est quand même super chouette de pouvoir faire ça. Donc voilà, pendant les 6 années que j'ai passées là-bas, on a essayé de toujours faire au mieux, on a essayé de mettre en place des protocoles en néonatologie, pour notamment par exemple l'autonomie alimentaire des prématurés. Voilà, on a travaillé sur pas mal de choses. Donc c'était vraiment intéressant. La seule chose qui était vraiment difficile, c'est qu'on n'avait pas d'équipe de nuit dans notre hôpital. Alors ça, c'est vraiment un peu hôpital dépendant. Certains hôpitaux font le choix d'avoir des équipes de nuit, d'autres demandent à ce qu'on tourne. Nous, on devait tourner. Ah, donc au début, on avait, je ne saurais plus dire, mais je crois que sur un temps de 6 semaines, on devait faire 2 semaines de nuit, toutes les 6 semaines à peu près.
D'accord.
Donc ça allait. Et puis le temps passant, comme on a changé nos plannings parce qu'on est passé en 12 heures, et puis après on avait demandé à plus faire 3 jours d'affilée, etc. Bon, bah, les plannings ont évolué, il fallait faire de plus en plus de nuits, et on était arrivé à quasiment moitié-moitié, finalement. On faisait, si je me souviens bien, 6 semaines de jour et 6 semaines de nuit après. Les arrêts, maladies, aidants, les congés maternité, etc., on se retrouvait parfois à faire finalement beaucoup plus que ça. Moi, je me suis retrouvée une année à faire 80% de nuit pour 20% de jour. Et bon, je tolérais de moins en moins les années passant. Je dormais quasiment plus en revenant de mes nuits. Sur mes jours de repos, je dormais plus. Je prenais des risques le matin en reprenant ma voiture. Enfin, je me suis vue m'endormir au volant. Alors certes, quelques secondes, mais bon, assez pour me faire peur et de me dire, mais bon, c'est pas le jour où j'aurai un accident très grave envers moi ou envers quelqu'un d'autre qu'il faudra que je me pose la question de continuer ou pas continuer. J'aurais pu faire le choix d'aller dans un autre hôpital qui, avec un poste sans nuit. Mais j'aimais tellement le service où j'étais que j'avais peur de ne pas retrouver assez ce côté un peu familial et les soins qu'on faisait. Et puis la diversité entre les urgences pédiatriques, pédiatrie, la néonate.
Ouais, ça c'est assez unique comme situation finalement, de pouvoir jongler entre les trois services.
Et c'est vrai que c'était très enrichissant parce que chaque service avait ses spécificités. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Alors il y avait parfois quand même des situations difficiles, hein. Même si c'était pas courant parce que on n'était pas un hôpital qui gérait des pathologies graves, etc. Mais on a pu avoir en néonate, alors c'était une situation très exceptionnelle, mais une fin de vie chez un nourrisson. Donc c'est quand même pas facile à gérer. Et puis aux urgences, ça peut être malheureusement des découvertes de leucémie, des découvertes de cancer, ou une pathologie. Alors des fois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais une grosse défaillance. Enfin. Un enfant qui va très très mal et bon, il y a pu y avoir des décès. Hein, et c'est difficile de faire face à ça, surtout qu'en travaillant cet hôpital-là, j'y étais aussi parce que je me disais je n'y serais pas confrontée. Mmh. Et bon, les choses faisant, malheureusement, on peut y être quand même confronté, malheureusement.
Bien sûr, ouais.
Et ça paraît tellement hors nature. Enfin, l'enfant, on n'imagine jamais qu'un enfant peut mourir. C'est vrai qu'on on voit ça chez la personne âgée où on se dit bon, c'est toujours très triste. Mais entre guillemets, la personne a fait sa vie, a vécu plein de choses et c'est dans l'ordre naturel des choses. Pour un enfant, c'est absolument pas l'ordre naturel. Donc c'est gérer l'enfant, c'est gérer ses parents aussi, évidemment. Et donc ça, c'est des situations vraiment très compliquées. Et en tout cas, moi, je me sens... Enfin, c'est quelque chose qui me mettait toujours très mal de pas pouvoir accompagner plus et pas pouvoir aider plus, parce que malheureusement, un parent qui est face à cette souffrance-là, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas atténuer sa souffrance.
Ouais, hein. C'est certain.
À part être présent, mais c'est vraiment... quand on est infirmier, je pense qu'on a ce côté-là de vouloir aider toujours. Mmh. Et là, on se retrouve face à une situation où on ne peut pas apporter de l'aide parce que c'est trop violent pour la famille. Et c'est assez déroutant quand on est soignant de ne pas pouvoir faire face à ça. Bon, ce n'est pas ce qui m'a poussé à partir du service. C'est plus le fait de travailler beaucoup de nuit qui était difficile. Mmh. Et donc, à ce moment-là, ça faisait presque 6 ans que je travaillais là-bas. Je me suis dit que c'est peut-être le moment où je me tournerais bien vers la PMI. Et donc, j'ai commencé à chercher. Alors, la PMI, c'est un peu... Alors, je ne sais pas dans les autres départements comment c'est en termes de possibilités, mais chez nous, c'est un peu tout ou rien. Il y a des périodes où il y a plein de postes disponibles, des périodes très creuses où il y a 0 poste.
Ah, d'accord.
Donc, moi, quand j'ai commencé à essayer de postuler ailleurs, donc j'avais passé un premier entretien qui n'a pas été concluant. Et puis, dans le département limitrophe, il y avait un poste qui se libérait. Et donc, j'ai postulé là-bas, j'ai été prise, donc c'était en mars 2020, la période du Covid, ce qui était assez déroutant, à la fois parce que commencer un nouveau poste au moment du premier confinement, c'était pas simple, et puis cette sensation un peu, même si c'était absolument pas de ma faute, mais un peu de quitter le navire en pleine tempête, quoi.
Ah, ouais.
Et de se dire, je laisse des collègues, alors même si les services de pédiatrie n'ont pas été impactés, au contraire, ils ont... finalement ça a été très très calme pendant en tout cas les premiers mois du Covid, c'était très calme en pédiatrie, en tout cas dans l'hôpital dans lequel j'avais travaillé, mais les collègues du coup sont allés aider dans d'autres services, les urgences, la réanimation, les services spécialement ouverts pour le Covid.
Ouais, ça partait tout en cascade vers les autres services, quoi.
Voilà,
ouais.
Tout à fait. Et donc d'être partie à ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu culpabilisant pour moi de me dire je pars et je les laisse dans des situations compliquées, difficiles.
Ouais.
Bon, après c'était comme ça, c'était décidé plusieurs mois avant, mais
ouais.
La vie est fait que. Donc à contrario, quand nous, parce que les PMI dépendent des départements, quand le département dans lequel je travaillais a demandé à ceux qui voulaient bien d'être bénévoles pour aller vacciner les week-ends. Ou sur notre temps de travail, on allait dans des maisons de retraite pour vacciner, je me suis portée tout de suite volontaire parce que je me suis dit que c'était ma petite pierre à l'édifice d'aller sur des samedis ou pendant mon temps de travail, de pouvoir apporter cette petite aide-là. Donc j'ai postulé en PMI et donc le poste dans le département dans lequel j'ai travaillé à l'époque, parce que depuis j'ai rechangé de poste, ce département-là avait un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire qu'il scindait les missions en deux. Donc, je vais revenir après sur la mission de la puéricultrice en PMI, mais scinder les missions en deux. Donc, il y avait 2 unités différentes, une unité qui faisait telle et telle mission et une autre unité qui faisait telle et telle mission.
D'accord.
Donc, en PMI, ça concerne les enfants âgés de 0 à 6 ans.
D'accord.
Donc, jusqu'à l'anniversaire des 6 ans. C'est-à-dire que 6 ans plus 2 jours, théoriquement,
c'est
même
fini.
Si, bon, dans les faits, ça se passe pas vraiment comme ça, mais théoriquement, l'enfant ne relève plus de la PMI.
D'accord.
Donc, ces services, donc PMI, ça veut dire protection maternelle et infantile. Donc, c'est un service qui a été, pour le côté un peu historique, ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour lutter contre la mortalité infantile.
Ah, très bien.
Voilà, c'est à charge des départements. Alors, ça, c'est plus récent que ce soit à charge des départements, mais en tout cas, c'est les départements qui mettent en place ce service-là, de la façon dont ils veulent. Enfin, les missions sont les mêmes dans tous les départements, mais la façon dont c'est mis en place dépend un peu de chaque département.
Les financements, etc.
Tout à fait, parce D'accord. que selon chaque département, il y a des financements un peu différents. Donc le département, les missions, il y a des missions de consultation après la naissance des enfants. Alors ça peut aller jusqu'à 6 ans, mais c'est vrai que souvent les parents, ça reste sur les 2 premières années de vie, peuvent venir consulter gratuitement en PMI. Selon les PMI, soit c'est sur rendez-vous, soit il y a des créneaux sans rendez-vous. Ça peut être en visite à domicile aussi.
Ah, d'accord.
Donc on fait des visites à domicile après la naissance pour aller peser l'enfant. C'est vrai que la première mission, c'est aller peser l'enfant, vérifier qu'il grandit bien, qu'il grossit bien. Mais c'est surtout, à mon sens, un moment d'échange avec les familles sur plein de sujets. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le sommeil, ça peut être la prévention des accidents domestiques, ça peut être l'éveil de l'enfant, le matériel de puériculture. Enfin, c'est assez vaste, finalement.
D'accord.
Donc, il y a ces consultations-là qu'on fait. On fait des dépistages dans les écoles maternelles, donc pour toutes les personnes qui ont des enfants, ont peut-être déjà eu à l'école maternelle vers l'âge de 4 ans. Donc tout dépend de la date de naissance de l'enfant, puisque le bilan qu'on fait doit se faire entre 3 ans 9 mois et 4 ans 6 mois.
Ah ok, c'est donc, super
alors,
précis.
Par exemple, nous, dans mon département, actuellement, par exemple, là, sur le début de l'année scolaire, j'ai pu faire le bilan pour les enfants de moyenne section qui sont nés en fin d'année.
D'accord.
Et là, bientôt, je vais commencer les bilans des petites sections maternelles qui sont nées en début d'année.
D'accord. Voilà. Ouais, ouais, très bien.
Donc, c'est un bilan qui regroupe le poids, la taille, un test de langage, un test auditif, un test, on fait faire des dessins aux enfants, notamment le dessin du bonhomme pour voir un petit peu où ils en sont dans leur développement. On fait aussi un peu de motricité. Et alors, selon les départements, il peut y avoir aussi un test de la vision. Nous, on a un orthoptiste qui vient dans les écoles faire le test de la vision, mais dans d'autres départements, il n'y a pas d'orthoptiste et du coup, c'est les puères de PMI qui font ce test-là pendant le bilan. Donc voilà, c'est une autre de nos missions. On s'occupe aussi des agréments des assistantes maternelles et des assistantes familiales. Les assistantes familiales, c'est les familles d'accueil.
D'accord.
Donc, c'est agrément et suivi de ces professions-là.
Donc, vous allez dans les logements de ces personnes pour contrôler que tout soit en règle. D'accord.
Tout à fait, on fait ça. On fait l'accompagnement des familles de façon plus globale, de tout ce qu'on peut leur proposer en termes d'accompagnement, d'aide au domicile. Donc il y a différentes aides, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a différentes aides qui peuvent être proposées pour les familles. Et puis il y a le sujet de la protection de l'enfance, qui est quand même un sujet assez difficile, puisque aujourd'hui, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle une cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc, dès qu'il y a un signalement au 119, donc 119, c'est le numéro enfance en danger, si un jour, qui que ce soit a des doutes, même si ce n'est que des doutes, sur la situation d'un enfant, on peut appeler ce numéro, le 119, pour relater les événements. On peut rester anonyme, d'ailleurs, on n'est pas obligé de dire son nom, son prénom, enfin, on peut rester anonyme, mais ça permettra après que cette information-là soit transmise à cette cellule qui va après mandater ou pas une équipe pour évaluer. Donc la cellule recueille donc des appels au 119, peut recueillir des signalements de médecins, d'hôpitaux, d'écoles, n'importe quel signalement qui peut être fait sur la situation d'un enfant qui est potentiellement en danger arrive à cette cellule départementale. Et cette cellule va, au vu des éléments, qualifier ou pas, parce que bon, malheureusement, il y a parfois aussi des fausses dénonciations, il y a des règlements de compte entre parents séparés.
C'est sûr.
Malheureusement, il y a des choses qui se passent. Bon, la grande majorité sont des réelles inquiétudes. Hein. Il y a très peu, finalement, de fausses dénonciations.
Okay.
Mais donc cette cellule-là va qualifier, au vu de la gravité ou pas des éléments, de mandater une équipe. Donc nous, si l'enfant a moins de 6 ans, c'est une équipe donc d'une assistante sociale avec une infirmière ou une puéricultrice. Si l'enfant a plus de 6 ans, c'est une ou deux assistantes sociales, selon la situation.
D'accord.
Et une fois qu'on est mandaté, on a un délai pour évaluer la situation.
D'accord.
Alors, on rencontre les parents pour leur expliquer le contenu de l'information préoccupante, voir ce qu'eux ont à nous dire par rapport à ça. On va au domicile, on rencontre les enfants. Selon leur âge, on demande à faire un entretien individuel avec l'enfant. Les parents peuvent refuser, mais on pose la question. On peut contacter les partenaires, les écoles, les médecins, etc. Donc on fait une évaluation, à savoir qu'on n'est pas la police non plus. Si les gens ne veulent pas nous répondre, ne pas nous ouvrir la porte, dans la loi, ils ont le droit. Dans ce cas-là, nous, dans notre rapport, on indique qu'on n'a pas pu rencontrer les familles. Voilà, on indique tout. Et après, cet écrit-là, l'écrit qu'on fait, va à notre... retourne à la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP. Après, donc, soit on a évalué, on se dit qu'il n'y a pas de danger pour l'enfant, c'est classé sans suite. Soit on estime que potentiellement, il peut y avoir un danger dans le développement ou un risque de danger. Et on peut proposer aux parents différents types d'aides. Mais c'est des propositions administratives, c'est-à-dire que ça ne peut se faire qu'avec l'accord des parents.
D'accord, donc on est toujours dans cette notion de recueillir le consentement des parents, y compris votre visite, du coup, elle est sur rendez-vous, les parents ont connaissance de la teneur de votre visite, etc.
C'est ça. Alors, après, j'ai envie de dire que chaque équipe fait un petit peu aussi différemment. Hein. Mais moi, les assistantes sociales avec lesquelles je travaille, nous, on prend le parti d'être plutôt dans le consentement, d'être dans la bienveillance, parce que ce qui est dans le... Il y a des choses qui peuvent nous choquer dans ce qu'on peut lire des signalements. Parfois, c'est pas tout à fait exact. Enfin, voilà, il y a toute une histoire derrière qu'on ne connaît pas. Donc, nous, on prend le parti, en général, de... Si, parce que, pour repréciser, les délais... Soit on a un délai très court pour rendre l'évaluation parce qu'on estime que le danger est imminent. Mm-hmm. Soit on a un délai de 3 mois. Et là, on a un peu plus le temps. C'est vrai que quand le délai est court, donc c'est 5 jours... forcément, il faut aller très vite. Et bah, là, on peut potentiellement se présenter au domicile des parents sans forcément les avoir contactés avant. Mais bon, on n'aime pas faire de cette façon-là. Mais quand on a un petit peu plus de temps, on les contacte dans un premier temps pour les recevoir dans les centres médico-sociaux, puisque les PMI se trouvent dans les centres médico-sociaux. Donc, la PMI, c'est vraiment le nom du service, et le lieu où on exerce, c'est les centres médico-sociaux.
D'accord.
Où on peut trouver d'autres professionnels dans ces centres-là. Mmh. Et donc, on les reçoit au centre médico-social pour leur expliquer vraiment la teneur de l'information préoccupante, leur expliquer comment ça va se passer, ce que nous, on doit faire, parce que c'est légal. Enfin, nous, on est obligés d'évaluer. Hein. Ce n'est pas juste notre choix à nous d'aller chez les gens.
Oui, ça a une valeur légale derrière, quoi. Ouais.
C'est ça, tout à fait. Il y a un cadre légal. Donc, on leur explique un petit peu tout ça. Et puis après, on leur propose de venir au domicile. On voit avec eux à quel moment ils seraient disponibles, parce que ben, certains travaillent, enfin selon leurs horaires de travail, etc. Enfin, on essaie de s'adapter au mieux. On les prévient, enfin, on leur demande leur accord d'appeler les écoles, d'appeler les différents partenaires. Alors, moi, j'ai jamais eu de refus par rapport à ça. Aujourd'hui, la loi est un petit peu en train de changer et serait en train de dire qu'on n'aurait plus besoin de l'accord des parents pour contacter les écoles, etc. Bon, c'est des changements qui viennent juste de se produire et on pense qu'il y aura sûrement des jurisprudences parce que, en termes de loi, du respect de l'usager, etc.
Ouais, du représentant légal de l'enfant, tu court-circuites un peu. Ouais,
c'est ça.
C'est peut-être
et
difficile.
Puis, nous, on estime aussi que pour travailler de la meilleure façon possible avec les parents, c'est pas en forçant le passage, entre guillemets, que les choses vont se faire de la meilleure des façons.
Ouais, je comprends.
Donc, moi, je suis dans l'optique de leur demander leur consentement pour appeler, et j'ai jamais eu de refus jusqu'à présent. Donc, on leur demande leur consentement, et après, donc, on va au domicile, on rencontre les enfants. Idéalement, on rencontre les enfants aussi en individuel pour recueillir leurs paroles. On revoit les parents si on a d'autres choses à leur demander, etc. Et puis après, on fait notre écrit et on les reconvoque pour leur lire ce qu'on a écrit et leur proposer des différentes aides, si on a des aides à leur proposer. Et recueillir leur consentement s'ils sont d'accord avec ce qu'on a à leur proposer. Okay. Et après, notre écrit retourne à la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est d'accord ou pas avec ce qu'on a mis, ce qu'on a proposé. Donc, soit il y a donc classé sans suite, soit on peut proposer des choses de façon administrative, donc avec l'accord des parents. Mm-hmm. Soit on a assez d'éléments et les parents refusent ce qu'on peut leur proposer. Et dans ce cas-là, on passe en judiciaire, c'est-à-dire que les documents vont aller jusqu'au juge des enfants. Et après, c'est le juge des enfants qui prendra une décision. Alors, soit il pourra aller dans notre sens et dire, bah, effectivement, il y a des éléments de danger et moi, j'oblige à mettre telle aide en place, ou ça peut aller jusqu'au placement de l'enfant. Mmh. Soit le juge estime qu'il n'y a pas assez d'éléments qui l'inquiètent dans notre écrit et donc va renvoyer en disant, bah, non, c'est un sans-suite et voilà.
D'accord.
Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sont pas les services sociaux qui placent les enfants, c'est toujours une décision judiciaire.
Ouais,
ça peut être une proposition de notre part, mais c'est toujours un juge qui décidera s'il y a un placement, c'est toujours ordonné par un juge.
Oui, vous êtes l'un des maillons, mais vous êtes vraiment le premier. Et
c'est ça.
Votre travail peut, générer des prises de décision, mais à la base, vous êtes là au tout début de la chaîne, quoi.
C'est ça. Et ce qui n'est pas simple non plus, c'est que ça reste une évaluation. On fait avec ce que les gens nous disent, ce que les enfants nous disent. Et même si parfois, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas forcément d'éléments concrets et on ne peut pas baser un écrit sur un ressenti.
Ouais, sur une conviction personnelle.
C'est ça.
Donc ça veut dire qu'il faut des faits, il faut des preuves, il faut des mots,
il faut
des actes.
Des rôles d'enfant qui aillent dans ce sens, etc.
Et de quel type de problème on parle ? Moi, j'ai tout de suite pensé aux violences psychologiques et aux violences physiques, mais il y a des négligences, il y a...
Ouais. Alors, les choses les plus graves, effectivement, ça va être la violence psychologique, violence sexuelle, violence physique. Mmh. Ça, c'est les choses les plus graves, mais je dirais que... Alors, bon, j'ai pas 10 ans de recul dans la profession, mais je dirais que c'est peut-être pas ça qu'on a en plus grand nombre.
Okay.
Et encore qu'après, ça dépend des territoires. Il y a des zones qui sont peut-être plus sujettes à ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de négligence, finalement. Des enfants qui sont pas ou peu scolarisés, des enfants...
D'accord.
Il y a des défauts d'hygiène, des défauts alimentaires, des carences éducatives, beaucoup de carences éducatives. Des parents qui sont un peu dépassés par les éléments. Et des parents aussi... Alors aujourd'hui, moi, je travaille sur une zone qui est essentiellement composée de familles migrantes. Mmh. Donc juste pour refaire un point, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant 2 ans sur un secteur où je faisais que des assistantes maternelles et assistantes familiales, donc des familles d'accueil. Bon, c'était intéressant, mais voilà, je perdais un peu le lien avec l'enfant. Et donc, depuis avril, j'ai changé de département. Et donc, là, maintenant, je suis un département où toutes les missions sont faites par les puéricultrices sur un secteur donné.
D'accord.
Et donc, maintenant, je refais toutes les missions de la puéricultrice de PMI. Et donc, moi, la spécificité du secteur sur lequel je travaille actuellement, c'est que c'est des populations essentiellement migrantes. Donc, il y a un parcours de migration derrière, des histoires très difficiles, des histoires traumatisantes, traumatiques, des familles qui ont des soucis administratifs, qui n'ont pas forcément qui sont sur le territoire de façon irrégulière, qui ont des soucis forcément du coup financiers, et donc des gens qui sont tellement vraiment englués un peu dans cette situation-là, qui ont tellement de problématiques importantes à gérer. Que finalement les enfants, alors c'est pas fait de façon volontaire, mais les enfants, l'éducation, etc., c'est un petit peu mis de côté parce que quand déjà on sait pas ce qu'on va donner à manger le soir même à ses enfants,
c'est ça, quand il faut survivre, peut-être que l'éducation passe pas au premier plan ou ce genre de choses,
ça. Quand c'est des familles qui sont plus dans la survie que vivre,
c'est ça.
Voilà,
ouais, c'est, quand il y a des difficultés sur tous les plans, bien sûr, il y a plein de plans qui en pâtissent, quoi.
C'est ça, donc c'est vraiment ça à prendre en compte. Après, ça peut être très divers et varié. Par exemple, dernièrement, j'ai eu le cas, pour revenir à la protection de l'enfance, un papa qui se rend dans un centre médico-social pour expliquer que d'après lui, donc ses parents séparés, la maman, d'après lui, ne s'occupe pas bien des enfants, donc il a donné quelques exemples d'hygiène, de poux, d'alimentation, des choses qu'il estime pas fait correctement. Donc dans ce cas-là, la cellule de recueil a recueilli ces informations-là, a décidé de mandater une équipe. Donc nous, on a évalué la situation. Donc en plus, c'est assez lourd parce qu'il faut évaluer aux deux domiciles, il faut interroger les deux parents.
Oui, bien sûr.
Il y avait plusieurs enfants dans la fratrie, plusieurs écoles, etc. Et finalement, on se rend compte que ce que disait le papa, il y avait peut-être un fond de vérité, mais c'était pas si catastrophique qu'il le disait. Puis finalement, à son domicile à lui, c'était pas vraiment mieux. Mais surtout, on a mis en lumière des grosses difficultés de communication entre les deux parents, voire de la violence entre les deux parents, des problèmes scolaires pour les enfants. Et finalement, cette situation-là, même si c'était pas ces problèmes-là que le papa mettait en lumière, nous a permis de proposer des aides à la famille qu'il n'avait pas forcément demandé, qu'il n'imaginait peut-être même pas que ça existait.
D'accord, ouais.
Et de les accompagner au mieux quand même. Mm-hmm. Donc, dans les aides qu'on peut proposer, il y a ce qu'on appelle les TISF, donc travailleuses d'intervention sociale et familiale. Donc, c'est des personnes qui vont aller au domicile. En général, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et qui vont vraiment se focaliser sur les besoins élémentaires, on va dire. Qui vont, par exemple, aider les parents à cuisiner des repas équilibrés. Qui vont aider les parents à proposer des activités adaptées à l'âge de l'enfant. Qui vont aider les parents à faire des inscriptions en crèche ou à l'école. Des choses assez basiques, mais pour des familles parfois qui sont des fois un petit peu limitées, ou des familles qui arrivent dans le pays, qui ne connaissent pas la culture, qui ne connaissent pas l'administratif du pays. Mmh. C'est parfois très difficile de se situer, d'être aidé, ou des familles très nombreuses. Et donc, une maman qui a 5, 6, 7 enfants, c'est parfois compliqué de tout gérer. Mmh. Cette aide-là peut vraiment aider. Alors, à savoir que cette aide-là, elle peut être aussi demandée par n'importe qui en France via la CAF. Alors, il y a une participation.
D'accord.
La participation dépend des revenus financiers de la famille. Mais n'importe qui, par exemple, typiquement une maman qui accouche de jumeaux, de triplés, qui est débordée avec cette charge de travail à la maison, peut demander cette aide-là auprès de la CAF, alors moyennant finance évidemment, mais c'est à savoir que c'est quelque chose qui peut être demandé par n'importe qui.
Et ça veut dire que ce monsieur qui est venu vers toi avec sur ce fond d'un peu de règlement de compte, si je peux dire, avec son ex-femme, finalement chez vous ça tire une sonnette d'alarme.
Oui.
Et vous n'allez pas forcément... Alors, vous avez répondu à sa demande, puisqu'il vous a fait part de choses assez préoccupantes dans le domicile de son ex-femme, mais ça vous permet de mettre en place des choses que lui n'avait pas envisagées, n'avait peut-être pas connaissance d'ailleurs de ce que vous étiez capable de faire.
Tout à fait. Okay. Et alors là, pour parler de cette situation-là en particulier, par exemple, nous, ce qu'on a proposé et les parents ont accepté, c'est ce qu'on appelle une AED, une aide éducative à domicile. Donc, c'est des éducateurs qui vont intervenir au domicile. Alors, malheureusement... Nous, c'est pas aussi régulier qu'on aimerait, parce qu'en général, c'est une fois toutes les 3 semaines. Donc, ça reste. Alors, des fois, il y a des mesures aussi qui peuvent être plus renforcées dans des cas où il y aurait vraiment besoin de plus, où il y a plus d'arguments.
D'accord.
Mais là, en tout cas, l'éducateur va permettre, alors, idéalement déjà, d'assainir un peu les relations entre les deux parents pour qu'ils puissent communiquer pour le bien de leurs enfants. Parce que forcément, les enfants assistent un peu à tout ça, hein,
ouais, c'est
évidemment.
Sûr.
Et puis, aider les parents sur aussi tout ce qui est scolaire. Parce que c'est des enfants qui sont un petit peu déscolarisés, etc. Donc voilà, l'aide éducative va pouvoir les aider. Après, ces mesures-là fonctionnent en administratif, c'est-à-dire avec l'accord des parents, mais ça peut être aussi des mesures qui peuvent être imposées par un juge.
D'accord.
Donc voilà, il y a différents types de mesures qui peuvent être imposées par les juges. Alors, je ne vais pas donner les noms parce que, bon, selon le département, ça ne porte pas les mêmes noms, enfin, ça change. Et ça peut aller jusque l'ordonnance de placement. Ça, c'est la mesure la plus grave, enfin, quand il y a la situation les plus graves, un danger imminent pour l'enfant, un danger grave pour l'enfant, on peut aller jusqu'au placement. Tout en sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, on manque aussi de places,
ouais,
en placement, que ce soit en famille d'accueil ou en foyer. Malheureusement, le domaine de la protection de l'enfance, même s'il y a déjà beaucoup de moyens mis en place, c'est toujours pas suffisant. Et on se retrouve face à des situations où les enfants devraient être placés, mais malheureusement, il n'y a pas de place. Donc, on renforce, on met des éducateurs à domicile, etc. Mais on sait que ce n'est pas la situation idéale, malheureusement. On ne peut pas faire autrement. Donc, c'est les limites aujourd'hui dans ce domaine-là de la protection. C'est vraiment, vraiment difficile.
C'est la question sur laquelle j'allais arriver, mais voilà, de quoi est-ce que tu manques, toi, pour exercer correctement ta profession ? Donc, de moyens humains.
Ouais, des moyens humains et financiers.
Et financiers.
Parce qu'aujourd'hui, notamment dans la protection de l'enfance, on manque vraiment de moyens pour qu'il y ait plus de places de placement, pour qu'il y ait plus d'éducateurs qui interviennent à domicile. Je sais que, alors, moi, la zone sur laquelle je travaille, j'ai de la chance, on a globalement les aides qui se mettent plutôt rapidement en place, mais je sais qu'il y a d'autres secteurs, pourtant dans mon département, hein, entre guillemets, qui a les mêmes finances, mais des zones où il y a plusieurs semaines, plusieurs mois qui se passent avant que les aides se mettent en place. Sauf qu'entre deux, les situations peuvent se dégrader. Donc c'est parfois un petit peu compliqué pour ces familles-là, parce que les situations se dégradent. On avait demandé seulement une travailleuse sociale et familiale au domicile qui allait intervenir sur des choses assez basiques. Et puis ça se met en place que 3 mois plus tard. Et entre deux, finalement, la situation s'est dégradée. Il faudrait plutôt quelque chose d'éducatif. Donc c'est un peu toujours ce jeu-là de réévaluer assez régulièrement les situations et toujours travailler avec l'adhésion de la famille.
Oui, c'est sûr.
Et travailler
en
collaboration avec eux. Et c'est ça qui est parfois compliqué, parce que nous, on peut repérer des choses qui ne vont pas et pour lesquelles les gens auraient besoin d'aide. Mais pour les familles, pour elles, tout va bien et il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est parfois un petit peu compliqué de faire comprendre aux gens que ce qui se passe actuellement dans la famille, ça peut avoir des répercussions sur le développement de l'enfant, même si ça ne se voit pas forcément tout de suite. Voilà, mais c'est aussi parfois remettre un peu en cause leur éducation, leur vision de comment on doit éduquer, de l'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçue.
C'est ça, ouais, c'est déconstruire des schémas peut-être qu'eux ont reçus à la base. Ou ils...
C'est ça.
J'entends souvent, c'est triste d'entendre ça, mais sur les violences faites aux enfants, la question de la fessée, des gens qui disent « moi j'ai eu des fessées petits et j'en suis pas mort ». Ouais,
complètement. Oui,
il va falloir sortir
plein de
schémas là,
qui existent et dont on meurt pas et qui pourtant sont pas adaptés.
Enfin, ouais, c'est ça.
Moi, quand on me dit ça, je dis souvent, mais il y a aussi plein de femmes qui malheureusement subissent une excision, elles en sont pas mortes et c'est pas pour autant qu'on trouve ça très bien.
Ouais, c'est vrai.
La fessée, c'est pareil. C'est
très bonne réponse.
Même si le geste sur le moment ne fait pas une douleur énorme à l'enfant et on se dit bon, on est nombreux à avoir eu des fessées et on est en vie et on va bien, etc. C'est quand même un geste qui n'est pas anodin. Et il faut essayer de se dire aussi que quand on éduque un enfant, on ne l'éduque pas seulement sur ce qu'on dit à l'enfant, on l'éduque par ce qu'on montre sur notre comportement à nous en tant qu'adultes. Et on veut souvent apprendre aux enfants à ne pas être violents envers les autres. Mais du coup, qu'est-ce qu'on lui apprend quand on lui met une fessée Voilà. Alors après, ça peut arriver à tout le monde d'être débordé un jour par ses propres émotions parce que ce jour-là, on a eu très peur, parce qu'on est très en colère, parce que... Voilà, enfin, j'aurais pas la prétention, j'ai pas d'enfant actuellement, mais j'aurais pas la prétention de dire que ça ne m'arrivera absolument jamais de crier sur mon enfant si j'en ai un jour, ou de mettre une fessée parce que j'aurais été débordée à un moment par mes propres émotions. Mais je pense que dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de, de retourner voir l'enfant après et lui dire, bah voilà, je suis désolée, j'ai fait ce geste-là, ou j'ai beaucoup crié, ou j'ai mis cette fessée, ou voilà, j'ai fait cette action-là, j'aurais pas dû, je l'ai fait pour telle ou telle raison, et voilà, s'excuser auprès de son enfant, comme on attend aussi que l'enfant des fois s'excuse parce qu'il a mal agi, bah c'est à nous aussi de montrer l'exemple et de se dire, bah moi aussi je peux m'excuser de ce que j'ai fait. C'est mais vrai. On peut tous être débordés à un moment donné, hein, ça... Personne n'est parfait, il n'y a pas de recette miracle de l'éducation. Hein. Oh, ben chacun clairement. Fait avec sa propre histoire, sa propre éducation, l'enfant qu'il a en face de lui aussi.
Bien sûr,
chaque enfant est différent.
Puis les ressources qu'on a à ce moment-là, mais c'est vrai. Est-ce que tu dirais, toi, que dans l'exercice de ta profession, tu es plus dans le curatif que dans le préventif, finalement, à regret ?
Ben. Non, j'aime à penser quand même que j'essaie de faire plus de préventif quand même, parce que alors la protection de l'enfance, c'est un champ quand même assez vaste, hein, on fait beaucoup de choses finalement presque en curatif quand on arrive en protection de l'enfance, mais il y a tout le reste qu'on fait avant qui est un peu invisibilisé, mais quand même, aujourd'hui, quand on fait des consultations après la naissance, quand on fait... Alors, il y a des familles qu'on connaît déjà parce qu'il y a eu plusieurs autres enfants qu'on a pu suivre, ou pour lesquels on a repéré des difficultés et où on fait un accompagnement un petit peu plus poussé qu'une famille lambda. Mmh. Mais quand on fait les consultations de puériculture, déjà, on fait passer beaucoup de messages, que ça soit sur l'éducation, que ça soit sur l'alimentation, le sommeil. Et j'espère, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, et je pense qu'on a un certain nombre à faire de cette façon-là, être dans la bienveillance la plus importante possible. Parce que moi, je suis assez persuadée que... Ben, alors, je vais dire les mamans, parce que c'est vrai que j'ai plus souvent affaire aux mamans qu'aux papas, mais les papas ne sont pas oubliés non plus. Mais une maman qui vient d'accoucher, qui est avec son nouveau-né, qui, alors, d'autant plus quand c'est un premier, qui découvre, enfin, qui a les discours à droite, à gauche, que ce soit du milieu médical, que ce soit de la famille, des amis, de Internet. Voilà, y a quand même beaucoup de discours aujourd'hui sur la parentalité. Alors, il y a des choses très bien qui sont dites, et des choses parfois moins bien. Mais il y a une pression assez importante aujourd'hui sur les parents, et notamment sur les mères, plus que sur les papas quand même, d'être la mère parfaite, parce qu'il faut tout bien faire, parce que à la fois il faudrait allaiter, mais quand même pas trop longtemps, parce qu'après on trouve que c'est bizarre. Il faudrait faire tout le temps les petits pots maison, parce que c'est mieux pour l'enfant. Il faudrait faire plein d'activités, faire du Montessori. Enfin voilà, il y a tout un panel de choses. Mm. Et les parents se mettent une pression assez dingue là-dessus. Et puis ils ont l'entourage familial quand même, qui est parfois, ou amical, qui bah, va... pas forcément toujours des remarques qui sont malveillantes, mais qui peuvent faire beaucoup de mal. Hein. Ça, je le constate quand même assez quotidiennement. Mm. Et donc, je me dis, bah, quand ces mamans-là viennent me voir en consultation, moi, j'aime bien avoir ce rôle-là un petit peu d'être dans un petit cocon, d'être là pour les écouter, entendre leurs difficultés, leur donner des conseils, mais sans les alourdir de conseils, parce qu'elles ont déjà plein de choses. Et surtout, moi, quelque chose qui me paraît assez important et que j'essaie déjà de mettre en place quand je travaille à l'hôpital, c'est de les valoriser et de leur donner confiance. Mmh. Parce que, alors bon, j'ai pas d'enfant moi-même, mais pour avoir beaucoup de mamans dans mon entourage privé, mais bon, et puis aussi, du coup professionnel, je pense que beaucoup de mamans, ben, peut-être même la totalité ou quasi-totalité, se culpabilisent beaucoup.
Ah, mais clairement.
Enfin, je dirais même avant la naissance de leur enfant.
Ah, mais...
C'est une vie de culpabilité.
Ah, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi.
chaque geste, chaque parole, enfin, tout est source de culpabilité. Et je pense que quand les parents ont plus confiance en eux et se sentent valorisés, ben déjà, ils se sentent mieux. Et un parent qui se sent mieux, c'est un parent qui va mieux, qui est mieux pour son enfant, et l'enfant va mieux aussi. Parce que c'est un peu un cercle vicieux, entre guillemets, un parent qui va pas bien, et ça, c'est pour tous les parents, je pense que cette phase-là arrive à un moment donné. Mm-hmm. Mais un parent qui se sent pas bien, bah, du coup, l'enfant ressent les émotions. Hein, et bon, du coup, c'est d'autant plus culpabilisant, parce que le parent voit bien que son enfant va pas bien et se culpabilise de pas se sentir bien. Enfin, c'est un peu
ce cercle vicieux. Ah, ouais.
C'est ça. Mais du coup, je pense que... Bah, mieux on va réussir à soutenir ses parents et ses mamans, mieux on va les valoriser, les accompagner, être bienveillants, mieux elles vont se sentir. Mmh. Elles vont peut-être aussi prendre confiance et pouvoir dire à la grand-mère ou la tante ou je ne sais qui va leur dire « Ah, mais moi, je ferais plutôt comme ça. » Bah non, moi,
je fais comme ça.
Ça et c'est comme ça, et puis pas autrement, parce que moi, je connais mon enfant, et puis, et puis voilà, puis chacun fait comme il veut. Bon, dans la limite de la sécurité, bien entendu, hein, de la bienveillance pour son enfant, mais chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Tant que l'enfant n'est pas en danger, chacun a sa vision et fait avec ce qu'il peut aussi à l'instant T, parce que on n'a pas tous les mêmes armes pour faire face à ça. Et c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de jugements sur les uns les autres. Il faut aussi pas oublier que chacun a une histoire de vie. Et on n'a pas tous les mêmes armes pour affronter les choses.
Complètement.
Et donc, certains parents vont faire des choix qui nous paraissent peut-être pas les meilleurs choix possibles. Mais malgré tout, pour eux, à cet instant-là, c'est le seul choix qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est le meilleur choix possible. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui disent « Ah, mais j'ai fait des erreurs ». Non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Vous avez fait ce que vous pouviez à ce moment-là et ce qui vous paraissait bien à ce moment-là. Alors peut-être qu'à posteriori, vous vous dites « J'aurais peut-être pu faire différemment ». Ben, c'est pas grave, la prochaine fois que vous êtes confronté à la situation,
fera mieux.
Vous ferez peut-être différemment, ou finalement peut-être pas. Et puis ce qui fonctionne sur un enfant ne va pas fonctionner avec un autre, et ce qui a fonctionné une journée ne va peut-être pas fonctionner le lendemain.
Ah non, mais on fait tous de notre mieux. Hein. C'est une certitude. Et tu vois, il y a des petites phrases. Moi, je. Alors, attention, racontage de vie. Mais je suis allée chez la pédiatre avec ma fille quand elle avait, je sais pas, 2 semaines de vie ou même pas un mois. Mm-hmm. Et la pédiatre m'a juste dit à un moment : vous vous occupez très bien de votre fille. Juste. Juste cette phrase-là. Tu vois, elle va avoir 6 ans, je m'en souviens, comme si c'était hier. T'es dans la période où hormonalement, c'est compliqué. Puis même sans parler d'hormones, juste t'es jeune maman, t'as l'impression que t'es en train de t'embourber, que tu doutes à chaque changement de couche, tu te dis est-ce que je fais bien les choses comme il faut. Et juste, il y a un professionnel qui te valorise. Et puis voilà, pas n'importe lequel, parce que c'est celui qui s'occupe de ton enfant. Donc c'est valable pour une infirmière puéricultrice en PMI, une sage-femme à l'hôpital ou autre. Et tu te dis...
Tout à fait.
Ah, super.
Et je pense que c'est des petites choses anodines, mais qui peuvent réellement changer une maman. Et ça peut aussi avoir un impact sur le lien qu'elle va avoir avec son enfant. J'essaie au maximum de valoriser. Alors c'est vrai que nous, par exemple, on travaille beaucoup sur le langage, parce qu'on sait que le fait de parler à son enfant va aider à développer le langage plus tard. Limiter les écrans, etc., ça va aider pour le langage, etc. Mais c'est vrai que les premières semaines, les mamans sont souvent très gaga et parlent beaucoup à leur enfant. Et du coup, moi, je pars du principe que c'est à ce moment-là qu'il faut que, justement, je valorise ces petits moments-là quand je les vois parler à leur enfant. Je leur dis, mais c'est super, là, ce que vous faites. Et du coup, le fait qu'elles se sentent valorisées là-dedans, je me dis qu'elles risquent de plus continuer après et pas de se dire, oh là là, je suis juste une maman gaga et puis... les gens vont me dire que ceci, cela. Non, c'est hyper bien parce que, et je leur dis, mais ça va aider plus tard votre enfant à parler, et ça, c'est super.
Ah, trop bien.
Donc, alors la PMI, c'est ouvert à tous. C'est n'importe qui peut aller en PMI consulter une infirmière ou une puéricultrice. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'avancer des frais.
Ah, super.
Et alors, je prêche un petit peu pour les infirmières et les puéricultrices qui travaillent en PMI, mais c'est différent des rendez-vous avec le médecin. C'est-à-dire que le médecin va vraiment se focaliser sur le côté médical, le développement de l'enfant, parfois un peu l'alimentation, etc. Les puéricultrices, souvent, elles vont pouvoir donner des fois des conseils un peu pratico-pratiques, des conseils aussi d'allaitement, parce que l'allaitement est parfois un peu méconnu quand même des pédiatres. Enfin, ils n'ont pas un gros apport pendant leur formation sur l'allaitement. Et puis après, selon les stages qu'ils vont faire, ça va aller. S'ils ne s'y intéressent pas forcément plus que ça, ils vont avoir des idées. C'est très préconçu parce qu'on est en France, on a des idées très arrêtées sur les choses, très théoriques, sauf que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Et donc, pour avoir tous ces conseils-là, les puéricultrices de PMI, il faut y penser. On est là pour accompagner les familles. Et puis, ça peut être un seul rendez-vous, et voilà. Ça peut être des rendez-vous sur plusieurs mois. Il n'y a aucune obligation de rien derrière. Nous, on propose des visites à domicile juste après la naissance, parce qu'on se dit que la maman qui vient d'accoucher, potentiellement qu'il y a une césarienne, pour bouger, c'est pas hyper
c'est sûr.
Pratique. Donc, on va facilement à domicile. Et donc les services de PMI, on est des puéricultrices, des infirmières, il y a aussi des médecins, mais sachant que les médecins en PMI ne voient pas l'enfant malade, on est toujours sur un public sain, donc le médecin de PMI va voir l'enfant pour observer son développement, pour faire des vaccinations, mais pas dire l'enfant il a une gastro, il faut aller voir son médecin traitant ou son pédiatre de ville.
Oui, ça c'est important de le dire, donc vous êtes sur l'enfant sain.
C'est ça, tout à fait.
Un nouveau-né dans un début de vie sans problème, on reste sur un suivi classique. Okay.
Tout à fait. On a aussi, nous, une sage-femme qui suit les grossesses et qui fait le suivi gynéco des mamans qui le souhaitent.
D'accord.
On a aussi dans notre centre médico-social une conseillère conjugale et familiale qui est là une fois par semaine. On a des assistantes sociales. Donc c'est vrai qu'on a quand même un panel de professionnels important et c'est assez méconnu finalement du grand public. C'est vrai que les gens ont un peu souvent cette image de la PMI. Soit la PMI, c'est là pour placer les enfants. Non, bah, déjà, c'est les juges qui décident de placer des enfants.
Voilà. Bah, si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien écouté l'épisode.
C'est ça. Et puis, alors, sur le nombre d'enfants qu'on suit, il y en a quand même très, très, très peu qui sont placés.
Hein. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Heureusement, d'ailleurs, enfin, j'ose espérer que les enfants trouvent mieux dans leur famille qu'en étant placés. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Mais,
oui, oui, oui.
Voilà. Et beaucoup de gens aussi imaginent que la PMI, c'est plus pour des populations défavorisées. Combien de fois j'ai entendu, mais c'est pour des cassos. Alors, j'aime pas trop cette expression, mais.
Oh, quelle horreur. Ouais.
Voilà. Mais beaucoup de gens ont cette image-là, et alors que absolument pas, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, et ça peut permettre d'avoir des conseils, des fois, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur l'éveil, des choses vraiment pratiques du quotidien, et de la part d'un professionnel de santé, parce qu'aujourd'hui, il y a les familles, les entourages, et beaucoup les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec beaucoup de coachs en parentalité. Donc, métier que j'exècre un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont absolument pas formés ou qui ont une formation un peu douteuse dans le domaine de l'enfance, ou parce qu'ils sont parents, ils estiment qu'ils peuvent donner des conseils. Demain, je vais me faire une coloration achetée en supermarché, je ne me décréterai pas coiffeuse pour autant. Hein.
Ouais, c'est des professions qui ne sont pas encadrées ou peu encadrées.
Et c'est
ça. Moi, ce que je déplore aussi, c'est que ce sont des gens qui interviennent dans des périodes de vie où on est hyper vulnérable.
Complètement.
Complètement. Moi, je dis toujours, quand on accouche d'un enfant, malheureusement, il n'est pas livré avec le mode d'emploi. Alors oui, il y a beaucoup d'innés, il faut se faire confiance, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Il y a beaucoup d'apprentissage, surtout.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ces gens-là, j'espère que c'est inconscient, mais ils profitent... j'ai envie de dire qu'il y en a pour qui c'est pas inconscient, mais qui profitent de cette vulnérabilité à ce moment-là pour profiter
c'est
un
ça,
peu
complètement,
de
parce
ça.
Que... Alors, pour revenir sur l'inné, on parle parfois d'instinct maternel et beaucoup de gens se représentent pas forcément ce que c'est l'instinct maternel et se disent « Ah, mais moi, j'ai pas eu d'instinct maternel parce que je savais pas quoi faire avec mon enfant.
Oui. »
Mais l'instinct maternel, c'est simplement de se sentir concerné par son enfant. C'est de se dire « Mais mon enfant, il pleure, faut que je fasse quelque chose.
Ouais. »
Je sais pas. Mais ça me retourne un peu les tripes et il faut que je fasse quelque chose.
Ça provoque quelque chose, quoi. Ouais, ouais.
Mais ne savoir pourquoi son enfant pleure, il faut des semaines et des mois pour comprendre. Et encore, il y a des fois, on ne sait toujours pas.
Ah oui, moi j'ai des souvenirs comme ça. Mais pourquoi elle pleure ? Écoute, elle n'a pas faim, elle est propre.
C'est ça, et parfois on n'a pas de réponse.
Ah non, clairement, clairement.
Et ça aussi, c'est beaucoup de travail de déculpabilisation. Et du coup, c'est vrai que ces coachs en parentalité s'engouffrent là-dedans et font payer parfois des sommes astronomiques. Moi, je suis toujours effarée des sommes qu'on peut soutirer aux parents parce qu'ils sont dans une période de vulnérabilité, de fragilité.
Ouais.
Et alors, notamment sur le sommeil, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, le sommeil. Hein. Beaucoup de gens, c'est vrai que quand on est fatigué, c'est très difficile. Mais c'est le sommeil, il y a beaucoup de choses qui sont sur les réseaux des coachs et moi ça me désole assez que des gens se payent des sommes aussi importantes pour des gens qui n'ont aucune formation et qui vont parfois conseiller des choses qui me semblent complètement aberrantes. Et donc voilà, je fais la promotion de la PMI.
Ouais, c'est ça, moralité, tournez-vous vers la PMI. Hein.
C'est ça. Après, sur les réseaux, il y a quelques profils quand même de professionnels qui peuvent être intéressants. Hein. Je pense une infirmière qui n'est pas puéricultrice, mais qui a fait quand même pas mal de formations, qui française, qui a immigré au Canada, Audrey Njavé, je ne sais pas si tu as pu déjà entendre parler d'elle.
On mettra son pseudo son compte dans la description.
C'est vraiment très intéressante et je suis très admirative de son parcours parce qu'elle a réussi à monter vraiment quelque chose de super, d'abord au Canada et puis elle a exporté en France et je crois même qu'elle est en train d'ouvrir ou qu'elle a peut-être déjà ouvert aussi aux États-Unis un centre parental pour vraiment accompagner les parents, alors sur le sommeil en particulier mais sur aussi bien d'autres domaines. Ce que je déplore aujourd'hui dans la profession de puéricultrice, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de libéral. Alors, on peut en faire, mais en tout cas, la spécialisation n'est pas reconnue en termes de cotation en fait. Si demain je veux faire du libéral, je serai sur les cotations infirmières. Des soins techniques.
Ouais. Donc ta spécialisation n'est pas reconnue en termes de remboursement, d'accord.
Non, c'est ça. Si je veux faire, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, de l'accompagnement et du soutien à la parentalité, les parents ne, ben, payeront mais n'auront aucun remboursement. Ah, oui. Si je veux faire de la consultation d'allaitement, si je me forme, alors même si j'ai déjà des bases, mais bon, pour être consultante en lactation, il faut un peu plus que des bases. Mais demain, je me forme, je veux être consultante en lactation, mes consultations ne seront pas remboursées.
D'accord.
Contrairement, par exemple, à une sage-femme qui aurait aussi la même formation, elle aurait le droit, enfin, les parents... la maman aurait le droit à un remboursement.
Et ça, c'est en discussion. Enfin, tu sais, si c'est quelque chose qui va changer, qui peut changer. Ouais, enfin, après, comme tu dis, entre ce qu'on dit et ce qui se passe.
Malheureusement, j'aimerais que ça change, mais j'en suis pas vraiment sûre, puisque quand on peut voir que... Donc, récemment, il y a eu le rapport des 1000 premiers jours. Je ne sais pas si tu as entendu parler par rapport aux enfants. Donc, les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est de la conception jusque pas loin des 3 ans. Donc, c'est une période... qu'on sait très importante pour le développement de l'enfant. Et donc, aujourd'hui, l'État veut mettre l'accent sur cette période-là pour aider au mieux les parents et que l'enfant ait le meilleur développement possible. Pour arriver à ce rapport-là, il y a un certain nombre de professionnels qui ont été conviés à rédiger ce rapport, donc des pédiatres, des pédopsychiatres, des sages-femmes. Aucune puéricultrice n'a été invitée à rédiger ce rapport. Donc, on peut voir que notre profession n'est vraiment pas considérée, malheureusement. On se bat, mais on est une profession, on n'est pas assez nombreuses. Et puis, bon, on n'est peut-être pas... La profession infirmière, en général, on est un peu peut-être trop gentille, pas vraiment se battre. L'histoire des nonnes et notre passé des nonnes d'il y a je ne sais pas combien d'années reste quand même très ancré, je pense. Et malheureusement, on n'a pas cette foi toujours de se battre vraiment. Ouais. On est concentré sur nos missions et
alors, le tout reste ça, passe un petit peu après. Ça s'explique d'un point de vue historique. J'avais écouté un épisode de podcast passionnant qui, je crois, s'intitule « Pourquoi les infirmières sont mal payées ?» et qui t'explique pourquoi, à la base, les infirmières, c'était des femmes. Il fallait qu'elles soient mères. Il y avait ce côté dévouement, dévotion absolument incroyable. J'essaierai de le retrouver, de le mettre en description de l'épisode, mais c'est un épisode qui explique vraiment pourquoi, en 2023... on en est encore là sur plein d'aspects, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis.
Ouais, malheureusement, peut-être qu'un jour ça changera, hein, je le souhaite.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que pour l'instant, on est assez peu reconnus, alors que je pense qu'on pourrait apporter vraiment beaucoup aux parents, mamans. Ouais. Et je pense que quand ça se passe bien, les premières semaines et premiers mois de vie, c'est quand même... assez un bon indicateur pour la suite, quoi. Et ça permet de bien lancer les choses. Et...
clairement, c'est un tremplin, c'est sûr.
Complètement.
Bon, donc, grand merci, Marie.
Allez au PMI.
Ouais, c'est ça. si vous n'avez pas compris le message... non, mais c'est bien de le rappeler, voilà, que ce service existe, qu'il est gratuit, qu'il est ouvert à tous.
Tout à fait.
Et c'est chouette.
Et qu'on peut avoir des aides aussi à domicile, qui ne sont pas forcément connues, mais parce qu'on peut tous se sentir dépassé à un moment donné. Et c'est pas... ça ne fait pas des parents, des mauvais parents, de se sentir dépassé à un moment donné. On a tous plus ou moins besoin d'un coup de pouce, parce qu'on n'a pas forcément tous une famille qui habite à proximité, qui peut aider. On n'a pas tous une histoire de vie facile.
Ouais, c'est certain. Ouais. Et c'est bien aussi de savoir tirer la sonnette d'alarme et de trouver les ressources qu'il faut au bon moment.
C'est ça, tout à fait.
Bon, super. Merci beaucoup, Marie, pour tout ça. On va finir avec le petit portrait chinois. J'ai encore quelques questions pour toi. La première question, que dirais-tu à la Marine d'il y a 10 ans?
Alors, 2013. Il y a 10 ans, j'étais déjà infirmière.
Ouais.
Alors, je lui dirais, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que c'était les débuts d'infirmière, donc beaucoup de stress dans les débuts professionnels, forcément. Dans ma vie privée, j'étais célibataire, même si on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Hein, mais voilà, moi, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Et 10 ans après, je suis mariée, tout va bien, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien au niveau professionnel. Voilà, le stress... mais l'autre côté, et tout va bien se passer.
Ah, génial. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Lunchbox, parce que de toute façon, je n'ai pas de cantine.
C'est ça, à la PMI, donc, malheureusement.
C'est réglé. Donc, lunchbox.
Très bien. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Alors, en PMI, je dirais un peu tout, puisque ce n'est pas des choses vraiment apprises. Enfin, pendant les à l'école de puériculture, on apprend un peu la PMI, le fonctionnement de la PMI, mais mener une consultation auprès d'une famille, ça ne s'apprend pas. Faire une évaluation de protection de l'enfance, ça, on sait les grandes lignes, mais bon, une fois qu'on est face à la famille, le positionnement professionnel face à tout ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, qui se vit et qui s'apprend sur le tas, au fur et à mesure des familles qu'on rencontre, des situations auxquelles on est confronté. Et donc, toutes mes missions de PMI, au final, je les ai apprises au fur et à mesure que je les ai exercées. Donc, un peu tout.
Un peu tout, c'est ça.
C'est ça.
Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Alors, la chanson qui me booste, j'aime beaucoup la chanson de Téléphone, Ça c'est vraiment toi. ça me met de bonne humeur tout de suite. Sinon, un peu toutes les chansons de Britney Spears, Spice Girls et compagnie de mon enfance, adolescence.
On n'a pas pris une ride.
C'est ça, exactement.
Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient ou qu'une patiente t'ait dite.
Alors, je me souviens pas de la phrase en particulier, mais j'ai eu une fois, donc j'étais étudiante puéricultrice, j'étais en stage dans une unité kangourou. Donc, pour resituer l'unité kangourou, c'est un peu entre la maternité et la néonate. Mm-hmm. C'est des enfants qui sont prématurés, mais pas trop prématurés, ou qui ont une pathologie, enfin, ou un souci de santé, qui nécessite une hospitalisation plus longue qu'en maternité. Mm-hmm. Et donc, c'est un service où les mamans sont hospitalisées avec leur enfant. Donc, j'étais dans ce service-là. Il y avait une maman, donc il y avait une petite fille qui était née avec un retard de croissance important. Donc, elle devait être en couveuse. Enfin, elle était en plus un petit peu prématurée, donc pas autonome sur l'alimentation. Et donc, c'était une maman, donc il y avait plusieurs enfants, dont un enfant qui portait avait un trouble du spectre autistique. Il n'y avait pas de papa dans la situation. Enfin, c'était une situation vraiment un peu compliquée. Et donc, je m'étais dit, typiquement, la famille, la maman, elle a besoin d'être soutenue. Enfin, je commence à lui parler un petit peu de la PMI. Et elle me dit que, bon... alors, je ne sais plus si elle avait eu une mauvaise expérience en PMI ou si elle avait juste entendu des choses qui ne la confortaient pas dans l'idée d'y aller. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer ce que c'était la PMI, ce qu'on y faisait, etc. Tout le bien que ça pouvait lui apporter. Et le lendemain, je reviens pour mon quart de travail. Donc, je retourne m'occuper de cette maman et de son bébé. Et donc là, elle me dit, ah bah, vous savez, j'ai réfléchi, je vais y aller à la PMI. Je vais prendre rendez-vous et je vais y aller. Je ne sais pas ce qui est advenu après, mais je me suis dit, bah, c'est une petite victoire quoi, d'avoir pu conseiller cette maman-là. Et j'espère qu'elle y aura trouvé des réponses et un accompagnement qui ont pu l'aider face à toutes les difficultés qu'elle pouvait avoir au quotidien, quoi.
Oh, trop valorisant de te dire, elle m'a écouté quoi.
C'est ça, et le message est passé parce que bon, des fois, on essaie de faire passer des messages et ça ne passe absolument pas.
Ouais.
Mais là, le message était passé. Et j'espère en tout cas qu'elle y aura trouvé du positif parce que
c'est
comme partout, hein, les professionnels, on est tous différents et il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Et bon, des fois, le lien ne se crée pas toujours, donc d'où aussi parfois les mauvais retours sur la PMI.
C'est sûr. Voilà. La question suivante, ton meilleur fou rire au travail.
Alors, mon meilleur fou rire, je pense que ça reste à l'hôpital. Alors, il n'y en a pas eu un en particulier qui m'a marqué, mais toutes les fois où une collègue est partie et où elle s'est fait un petit peu bizuter avant de partir, ou les internes en fin de stage qui se faisaient un petit peu bizuter, c'était parfois... assez drôle. Les déguisements, les produits qui se retrouvaient un petit peu partout, dans les cheveux, mis sous la douche, tout habillé, les choses...
Ouais, alors ça, c'est un truc, je sais pas si le grand public est trop au courant de ça, mais alors le bizutage de, de changement de service ou de démission ou de... Oh là là, il est costaud, hein. Sous la douche, tout habillé avec la bétadine.
C'est ça, exactement.
Vous laissez imaginer pour rincer la bétadine.
Oui. Bah, j'ai subi avant de partir de l'hôpital.
On est tous passés par là, je crois, hein, franchement.
C'est le passage obligé.
Ouais, exactement. Puis il y a une sorte de rite de passage.
C'est
et puis
ça.
Après, t'en as bien souffert, tu le fais sur les autres. Et puis...
Exactement.
Voilà, ça doit faire des années que ça dure. Et écoutez, c'est toujours comme ça. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Eh bien, je dirais Nos jours heureux, un film qui parle des colonies de vacances, etc. Mais au final, j'ai que 10 ans de carrière derrière moi, mais ce qui est déjà quand même pas mal. Mais finalement, malgré les difficultés qu'on peut tous rencontrer, des situations difficiles auxquelles on est confronté, je me suis toujours sentie épanouie. J'ai eu la chance de pouvoir faire les bons choix et d'être toujours dans des lieux qui me correspondaient et du coup de m'épanouir dans ce que je faisais auprès des patients, auprès des familles. Et donc, malgré des situations parfois compliquées, je dirais que j'ai vraiment apprécié ces 10 années de carrière et j'espère autant apprécier les minimum 30 prochaines qui arrivent.
Oui, bah là, c'est sûr qu'avec toutes ces discussions sur la retraite, bah, malheureusement, c'est pas prêt de se finir, mais c'est chouette.
Voilà, j'espère continuer à m'épanouir autant dans ma profession dans les années qui viendront.
Ouais, et puis du coup, moi, je souhaite à ta profession d'évoluer aussi et que le gouvernement prenne conscience de la richesse de votre métier, de ce que vous êtes capable de faire. On peut aller tellement, tellement plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Exactement.
Bon, bah super, un grand merci, Marine.
Bah, merci à toi, merci de m'avoir permis de faire découvrir ma profession et de pouvoir un peu généraliser ça et que les gens puissent connaître un peu plus à la fois la spécialité de puéricultrice et à la fois la PMI.
Ouais, et le champ d'exercice qui est vaste, hein, c'est sûr. Ouais, et cette année d'études, là, j'en reviens pas à faire tout ça en un an, c'est incroyable.
C'est très très dense.
C'est vraiment très très dense, ça mériterait d'être nettement plus long. Merci Marine.
Merci Marielle.
Bonne continuation, à bientôt.
Merci beaucoup.
J'espère que Marine vous aura fait découvrir l'univers de la protection maternelle et infantile et vous aura permis de découvrir les nombreuses facettes de son métier. Je me permets de vous orienter vers l'épisode 6 du podcast où je recevais la pétillante Noémie, sage-femme de profession. Et pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, je vous donne rendez-vous dans la description du podcast. À très bientôt pour un nouveau portrait.